Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Alors messieurs, on est toujours en dispositif confinement, on le rappelle, hein, nous sommes en mai 2020. Ça va bientôt d'ailleurs être le déconfinement, logiquement, au moment où on enregistre. Si vous écoutez l'épisode à sa sortie, c'est le dernier week-end pour certaines régions de France. Vous allez pouvoir retrouver la liberté, vous balader dans les rues, voir vos proches, et ce sera une très mauvaise idée parce que peut-être que c'est ce qui va provoquer une seconde vague. Donc voilà, alors c'est pas vraiment notre rôle, hein, nous ne sommes pas les autorités compétentes, mais voilà, on vous rappelle quand même à la prudence malgré ces histoires de déconfinement. Voilà, continuez à prendre soin de vous, même si vos proches vous manquent, il faut continuer à se distancier parce que, en fait, tant que le virus est là et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne pourra pas forcément vivre tranquillement, reprendre notre vie d'avant. Est-ce qu'un jour nous le pourrons? C'est la question que je pose.
Est-ce que nous le souhaitons, Hugo?
Est-ce que nous le souhaitons? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer un nouveau monde? Je ne sais pas. Moi, ce que j'imagine, en tout cas, c'est un Patreon qui continue d'évoluer.
Non, mais non.
Toujours dans les transitions, toujours
incroyable.
Dans les transitions sur le Patreon. Non, voilà, vous êtes toujours plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur Patreon. Et à chaque fois qu'on se dit, tiens, ça ralentit un petit peu, eh bien, en fait, non. Vous nous donnez tort, vous continuez à être là pour nous soutenir. Et voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment de la chance de pouvoir continuer à faire cette émission. On est très content qu'elle vous parle autant. Vous êtes aussi toujours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur le Discord, l'espèce de club, ce qui nous sert de club de lecture, hein, tout simplement. Je crois qu'on a dépassé les 2000 membres là aussi.
Il y a quelques temps, ça, les 2000.
Tu vois, on disait le nouveau palier il y a une semaine ou deux, et là, boum, on est déjà en direction vers le prochain. Mais c'est fou. Par contre, on a commencé à annoncer plus de jeux sur le Discord pour vous laisser aussi plus de temps pour préparer les jeux, parce que l'idée du club de lecture, c'est de vous dire, bah voilà, nous on va vous parler de gros jeux, etc. Donc il faut aussi que vous ayez le temps pour pouvoir les faire. Puis ça nous permet aussi de renforcer notre pouvoir de l'ombre sur l'industrie vidéoludique et de pouvoir vous annoncer des promotions en avance. Dès qu'on décide d'un jeu, il devient en promo. Ça s'est encore vérifié ces derniers temps. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord.
Ouais, on est donc à 4 jeux, hein, 4 jeux d'avance sur le Discord. Donc voilà, vous avez 2 mois maintenant pour vraiment faire les jeux dont on va parler dans l'émission. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez rejoindre le Discord en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode, tout simplement.
Comme ça, si vous voulez savoir si on parle de Mass Effect, si on parle de Child of Light, de tel ou tel jeu préféré ou pas, vous le saurez et vous serez...
C'est vrai que c'est devenu un peu la tradition, on a un channel de présentation sur Discord et il y a pas mal de gens qui font des demandes en disant alors mon jeu préféré de la vie à moi c'est ça, pourquoi vous en parlez pas? Donc vous inquiétez pas, il reste beaucoup de jeux, on compte rester encore j'espère pas mal d'années à continuer à faire du fin du game, donc un jour ou l'autre, peut-être. On en parlera.
Voilà, faites-nous confiance. Voilà, on voit vers l'avenir. On prévoit notre programme. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Tout va bien se passer. On ne pourra pas contenter tout le monde, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. On remercie également Sœur d'édition, notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Leur actu du moment, c'est toujours... Oui, Benoît, pas
mais non, mais j'ai failli, je me faisais pas réagir. Mais je me suis dit, non, il enchaîne, alors je ne dis pas, mais pas que. Voilà.
Alors, leur actu du moment, c'est toujours le bouquin sur Peter Molyneux, qui a été écrit par Raphaël Lucas, les 3 visages de Peter Molyneux. Alors, dans le dernier épisode, je disais, j'y connaissais strictement rien. Du coup, Mehdi de Sœur, il a fait, ok, t'y connais rien, voilà. Je t'envoie le livre, comme ça tu vas pouvoir voir un petit peu mieux de quoi il s'agit.
Et, donne des devoirs, Mehdi.
Voilà, c'est ça, ouais, une donne des devoirs. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, de ma perspective de personne qui connaît vraiment pas trop, moi, tout ce que j'en connais de Peter Molyneux, c'est ses frasques, en fait, c'est ces espèces de grandes promesses, ces trucs comme ça. Mais en fait, là, avec tous les entretiens qu'il a pu faire, Raphaël, on peut se rendre compte aussi de comment lui il les a vécus, c'est-à-dire que non seulement déjà il croyait bien souvent, c'était lui le premier à croire à ses grandes promesses, et surtout la façon dont il a pu être traité dans les médias, ça a eu aussi un impact sur sa façon de travailler, et voilà, c'est intéressant aussi d'avoir cette autre perspective, et parce que c'est toujours un mec finalement qui a eu une sincère envie de faire bouger les choses, tu vois, et de créer des choses avec le jeu vidéo. Alors peut-être que parfois c'était un peu maladroit, mais en tout cas il y avait toujours cette envie-là, et voilà, donc ça peut être intéressant, voilà, encore une fois, si vous avez aimé Fable, si des jeux comme Godou, c'est des choses qui vous ont marqué, alors là ça peut vraiment être l'occasion de découvrir cette autre perspective-là.
Surtout que là, on est à quelques jours, hein, tu vois, au moment où l'épisode sera sorti, là, il y aura déjà eu la conférence de la Xbox, tu sais, où ils présentent des jeux de la Xbox Series X, etc., et peut-être qu'ils vont nous parler d'un nouveau Fable, hein. On sait pas, hein. Normalement, on en parle dans l'émission.
Attention à ce que tu fais, parce que là, t'es en train de modifier le destin, là, tu vois.
Ah, peut-être,
si on
peut-être.
En parle, voilà, t'es en train de modeler, de tisser le destin. Ouais, ouais. Voilà, petite
peut-être
référence.
Peut-être que le continuum espace-temps, hein, bien sûr, va se déchirer. On ne sait pas.
Il sera déjà en solde. Ils vont annoncer un nouveau Fable qui sera en solde sur Steam.
Direct.
Direct offert par Epic Games, voilà.
Ça va trop loin cette histoire.
Très bien, bon, on va pouvoir partir vraiment sur l'épisode du jour, puisqu'aujourd'hui on va pas du tout être dans le délire Fable, pas du tout dans cette subtilité là, on va parler de chasseurs de démons qui ont des cheveux blancs et qui font des petites acrobaties au ralenti, puisqu'on va parler donc de Devil May Cry 5. Moi j'ai toujours aimé les trucs chez Capcom, tu sais, comme ils font Devil May Cry, Resident Evil, j'aime bien, ça me met tout de suite dans l'ambiance, j'aime leurs écrans titres.
C'est ce que Platinum a importé avec le petit Bayonetta aussi.
Oui, exactement, le Bayonetta.
C'est vrai qu'ils avaient gardé cette même idée. Ouais. Vanquish aussi, ils ont fait pareil. Vanquish.
Oui, oui, c'est
très
vraiment
bien.
Cette école-là. C'est l'école.
L'ASMR écran titre, ça fait du bien. Tu sais, tu es directement dans le jeu.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une compilation sur YouTube avec justement, tu sais, où ils les enchaînent tous comme ça, tu vois, ils les prononcent tous, et tu l'as en boucle pendant 10 heures et tu Mais c'est pas ça qu'on va vous mettre avant de commencer l'épisode. Je pense que Maxime va nous mettre Devil Trigger, qui est vraiment la chanson iconique de cet épisode. Et puis on est parti pour un nouveau fin du game.
Let it out.
Devil May Cry 5, et je le dis en anglais une fois, je ne le dirai plus après, c'est sorti le 8 mars 2019, c'est sorti sur PC, PS4, Xbox One, ce n'est pas encore sorti sur Switch, c'est possible, ça peut arriver, on ne sait jamais avec Capcom, ils ont toujours un portage dans les tuyaux, alors je ne sais pas si la Switch pourrait vraiment faire tourner le RE Engine.
Ils n'ont pas fait Resident Evil 7, ils n'ont pas annoncé de plan pour le remake du 2 ou quoi, donc on pourrait imaginer qu'il y a peut-être des soucis. Tu vois, si un jour ils nous montrent Monster Hunter World dessus, peut-être qu'on pourra se dire que...
Aïe.
Mais bon, en tout cas, voilà, il y a toujours la trilogie. Hein.
Exactement, il y a déjà la trilogie HD, donc des trois premiers Resident Evil. Voilà, je commence à faire la confusion. Et pourquoi ? Non, mais alors, cette confusion, le lapsus est révélateur. Pourquoi ? Parce que Devil May Cry, en fait, à
très
l'origine...
Très bien rattrapé.
Oui, t'as vu comme je jongle avec mes anaries. Devil May Cry, en fait, à l'origine, ça devait être le quatrième épisode de Resident Evil. C'est Hideki Kamiya, qui était déjà director sur le deuxième épisode de Resident Evil. En fait, il était en phase de prototypage, il cherchait, il explorait des nouvelles pistes pour essayer de faire évoluer la série, déjà avec l'épisode 3 qui était quand même pas mal des chutes du 2, il y avait quand même un besoin de se réinventer un petit peu, et du coup il a essayé d'explorer d'autres délires, ils sont notamment partis dans une espèce d'esthétique complètement différente, avec des cathédrales, quelque chose de beaucoup plus gothique, et puis aussi surtout quelque chose de beaucoup plus action, avec du corps à corps, un contact beaucoup plus proche en fait avec ce qui était encore les zombies, mais finalement Shinji Mikami, qui est donc le réalisateur original de Resident Evil et qui a supervisé la série jusqu'à ce moment-là, il lui dit « C'est pas mal, t'as un bon concept, mon cher Hideki, mais c'est peut-être un petit peu trop loin pour du Resident Evil. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas garder ce jeu, tu vas garder ce proto et tu vas en faire toi-même un nouveau jeu. Et puis moi, ce que je vais faire, je vais reprendre le bébé pour ce quatrième épisode et il en fera ce qui deviendra Resident Evil 4. » Et donc, un monument quand même du jeu vidéo, puisque... c'est pas lui qui... Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui a inventé le TPS ?
Pas tout à fait, mais en tout cas, il a quand même posé des bases très solides qui ont été confirmées par la suite par Uncharted, Gears of War et toutes les... Et qu'on sort.
Exactement. Et du coup, Kamiya, lui, il se dit « Très bien, maintenant, j'ai vraiment le champ libre pour pouvoir explorer ce que je voulais explorer. » Donc, il reste sur ce délire gothique, cathédrale. Il part même encore plus loin en s'inspirant carrément de la Divine Comédie de Dante. Hein, et c'est donc là, c'est de ce nom-là que deviendra le personnage principal. D'ailleurs, il y a d'autres persos. Hein, je crois que Virgile, je crois que Triche aussi. C'est toutes des réécritures très, très libres, on va dire, du poème de Dante. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est dans les années 2000, on est au tout début des années 2000, hein, puisque le premier est sorti en 2001, et au cinéma, il y a eu un film qui a eu une importance assez majeure dans la pop culture, c'est Matrix, et on sent que le film est passé par là, j'imagine que Kamiya l'a regardé une ou deux fois avant de se lancer dans la production de Devil May Cry.
Ouais, tout de suite, les flingues sont devenues assez sexy, on a l'impression, ça a été mêlé avec du cuir, tu vois, on parlait aussi...
manteau cuir et flingue.
Ouais, c'est ça, cuir et flingue, on parlait d'un autre film qui a pas mal surfé sur cette nouvelle vague glamour, c'était Blade aussi, qui est très... très dans une ambiance comme ça, donc c'est un peu de l'époque, on s'était dit entre nous, mais les Resident Evil c'était plus Romero et peut-être film d'action années plutôt 80, là on est plus dans du années 2000, tu vois, c'est un peu un jeu vraiment qui est un produit de son époque, quoi.
Surtout que Blade, c'était déjà un chasseur de vampires ou un truc comme ça, donc on est vraiment dans le délire de ce que deviendra Devil May Cry, puisqu'il chasse les démons.
Écoutez, bienvenue dans Fin du Game, un épisode spécial sur Blade, voilà, la plus grande série de films d'action. Wesley Snipes, évidemment, un monument du cinéma américain.
Est-ce qu'il faut vraiment retenir Blade ? Je ne sais pas.
Non, mais bon, par contre, c'est vrai qu'en termes d'esthétique, ça posait un peu des bases. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, Matrix, vraiment, c'est sorti en 99. Pour tous les gens qui ont vécu le changement de millénaire, l'année 2000, c'était quand même un truc un peu assez particulier à vivre de l'intérieur. Et Matrix, ça s'est diffusé dans la pop culture et l'imaginaire.
Ça a matrixé la pop culture.
Exactement,
voilà,
c'est même devenu un verbe du premier groupe par la suite. Et c'est clair que n'importe qui a vécu ça, que ce soit des ados ou des jeunes adultes, comme c'était le cas avec les Kamiya et Mikami et tout, c'est normal en fait, je pense, qu'ils se soient inspirés de tout ça. Et on se le disait aussi en prépa, c'est que c'est sorti la même année que Max Payne. Max Payne, ouais. C'est lui qui a repris le bullet time et toujours le côté « les flingues sont sexy ». Je retiens le truc de Max, parce que ça résume bien
le délire. Ça a toujours été sexy quand même, les flingues, hein, il faut le dire.
Ouais, il y a tout un imaginaire, c'est pas ma cam, mais en tout cas dans le jeu vidéo, il y a eu cette période où effectivement ils étaient dans le délire bullet time, combat corps à corps. Les personnages poseurs comme ça, parce que c'est vrai que Matrix, il y a tout un tas de still frame où tu vois Neo qui a des positions incroyables, évidemment avec ses cheveux qui ne bougent pas. Trinity qui fait pareil et tout, et Dante de Devil May Cry, c'est vrai qu'il est un peu dans ce délire là quoi, c'est un type super poseur, et justement bah c'est un peu le style, c'est un peu ça en fait qui a défini Devil May Cry quand c'est sorti. Alors je le rappelle, c'était un des premiers jeux, enfin c'est pas un des premiers jeux de la PS2 parce que bon ça, elle avait déjà un an, mais en tout cas c'est un des jeux qui a vraiment propulsé la PlayStation 2 et qui nous a montré ce que c'était la vraie 3D, les vrais graphismes, parce que bon c'était une, aujourd'hui vous regardez ça vous fait marrer, mais pour l'époque
souvenez-vous,
c'était très beau.
Une sacrée claque, vraiment.
Je m'en souviens parce que j'avais, tu sais, il y avait encore des magazines. Bon, il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, mais ils étaient beaucoup plus populaires qu'aujourd'hui. Et il y avait des CD dans les magazines, et il y avait une démo de ce fameux Devil May Cry. Et je me souviens, je la faisais en boucle parce que j'étais vraiment impressionné par ces graphismes. C'est vrai qu'il y avait eu un vrai bond quand même graphique avec la PlayStation 2, des bons qu'on vit peut-être un peu moins aujourd'hui au changement de génération, je pense qu'on va le sentir avec la PS5, mais c'est vrai qu'il y avait un vrai bond, et comme tu le dis, oui, cette idée de style qui a vraiment tout de suite forgé l'identité de la série, notamment avec ces espèces de notations qui étaient constamment là, hein, ces lettres, c'est quoi, c'est à partir
ça part
de
D, ouais, tu pars sur D, ED, jusqu'à ouais. C, B, A, S, W, S, triple S, qui est évidemment le rang ultime.
Qui te note constamment en fait dans ta manière de jouer, c'est-à-dire qu'il y avait déjà cette idée de pour monter la note il faut varier les styles, et voilà, c'est varier les styles et être stylé tout simplement, être un poseur en fait comme ce qu'est Dante.
Ouais. Et il y avait tout qui allait autour, c'est-à-dire qu'il y avait cette esthétique, il y avait les histoires des cuirs, il y avait les combats, il y avait des animations complètement improbables avec des attaques qu'on n'avait jamais vues, tu vois, le fameux coup où il se met à faire des toupies sur lui-même avec ses flingues,
oui,
t'avais la musique
oui.
qui emportait tout ça.
Là.
Tu vois, c'était la première fois dans un jeu vidéo qu'on entendait comme ça des espèces de groupes de métal dont on n'avait jamais entendu parler. Nous, tu vois, jeunes adolescents, c'était fou. Hein. L'année suivante, on avait tous des blanteaux au cuir et les cheveux longs blancs, tu vois, déteints. C'était la mode, c'était comme ça, on était tous...
Les prémices de Tokyo Hotel, Evanescence, tout ça. Voilà, on était là-dedans, hein, voilà, c'était le début des années 2000, c'était stylé d'être émo gothique à cette époque, c'était encore possible. Mais pour revenir un petit peu plus à la série, elle va continuer à avoir un destin particulier, puisque bah, le deuxième épisode, en fait, à partir du deuxième épisode, Camilla, lui, il a plus du tout envie de bosser dessus, c'est notamment au moment où Capcom connaît une espèce de restructuration complète, ils vont d'ailleurs, c'est à ce moment-là que va se fonder le studio Clover Studio, qui est une succursale en fait de Capcom, et c'est là que Camilla va pouvoir s'exprimer avec Okami, Beautiful Joe, je crois que Mikami sortira aussi God End. Est-ce que tu connais, est-ce que tu avais joué toi God End, Benoît?
Oui, God End, je l'ai bien poncé en fait, parce que je me suis vraiment pris au jeu de cette idée de créer soi-même ses propres combos. On sent qu'il y a quand même un héritage de Devil May Cry. Ça a jamais donné grand chose d'autre, c'est un jeu assez confidentiel, mais je sais que j'en ai gardé un bon souvenir.
Et du coup, bah, le deuxième épisode, en fait, qui n'a plus de papa, hein, il est orphelin, comme on dit, il n'y a vraiment plus personne qui s'en occupe. Alors, c'est pas qu'il n'y a plus personne qui s'en occupe, il y a peut-être un directeur qui s'en occupait, mais là, rétrospectivement, en fait, Capcom n'en parle pas du tout. Il est même noté comme Uncredited Director, tu vois, donc ils ont vraiment rayé son nom de la liste. Et c'est donc Hideaki Itsuno qui récupérera vraiment le deuxième épisode, mais en toute fin de production. Et en fait, bah, malheureusement, il n'arrivera pas à sauver vraiment le projet. Parce que bah, quand il sort, il se fait vraiment très très mal recevoir par les critiques. C'est vraiment une grosse retombée par rapport au succès qu'avait pu connaître le premier.
Et c'est d'autant plus grave en fait que le 1 a tellement bien marché, il y a eu une espèce, tu vois, de hype et de communauté qui s'est créée autour du truc. Quand le 2 sort, il se vend encore mieux. Ouais. Et du coup, bah, la chute a été d'autant plus violente, quoi, parce que bah, le jeu, il était, tu sentais tous les problèmes de développement, tu refaisais les mêmes niveaux en boucle, il y avait presque pas d'histoire, presque pas de cinématique, enfin... pas beaucoup de variété dans les ennemis ni dans les coups, en gros c'était plus du tout un jeu fini, quoi. Tu sentais qu'il y avait eu des gros soucis, quoi.
Et ça va faire vraiment mal à la série, parce que même le 3 quand il va sortir, et là Itsuno qui reprend vraiment le projet, qui se l'approprie, qui adopte vraiment Devil May Cry et qui le fait vraiment sien, va en faire ce qui est considéré encore aujourd'hui comme un des meilleurs épisodes de la série, mais malheureusement, il va vraiment pas se vendre bien, tellement le 2 avait vraiment mis une épine dans le pied de la série, quoi. Il y avait tellement de mauvaise réputation que le 3 se porte pas très bien. Il va quand même pouvoir enchaîner sur un quatrième épisode qui rentrera dans l'ère HD, puisqu'il va sortir sur PS3 et 360, mais là, malheureusement, nouveau coup dur, et là, ça va être un coup dur à une échelle beaucoup plus importante, puisque bah, c'est toute l'industrie japonaise hein, qui va prendre cher, hein, comme on dit chez nous, pendant ce passage à la HD, puisque bah voilà, et Capcom ce sera vraiment un des éditeurs le plus représentatif de cette crise qu'a connu le Japon pendant cette période HD, qui va pas réussir à s'imposer, à se trouver. Je crois que le quatrième épisode fonctionne quand même, mais du coup ils le mettent vraiment de côté, surtout que Itsuno, bah lui, il veut bosser sur autre chose et il passera sur Dragon's Dogma.
Ouais, qui va être un gros projet d'action RPG chez eux. Tu vois, on est quelques années après Skyrim, qui a vraiment marqué le début des années 2010. Et du coup, bah voilà, Itsuno, il a envie de faire un monde ouvert, un RPG très à l'occidental, avec des grosses créatures et tout. Il va réussir à faire quelque chose de ça. Dragon's Dogma, c'est un jeu qui s'est quand même très bien vendu sur la durée. Moi, c'est une série du cœur. Hein. J'adore beaucoup ce jeu. Lui, il est sorti sur Switch, contrairement à Devil May Cry. Bon, en même temps, il n'est pas aussi abouti visuellement. Il y a eu une version online et c'est vrai qu'Itsuno, c'est un de ses projets du cœur lui aussi, puisque ben, ouais, en gros, il nous a dit que voilà, il terminait Devil May Cry 5, maintenant c'est bon, il va pouvoir passer chez Dragon's Dogma 2. Ce qui est assez fou, c'est de se dire que voilà, les développeurs japonais, ils ont tellement d'importance dans les studios que quand un réalisateur comme ça, il a 15-20 ans de métier et qu'il est respecté, il peut dire un truc et la boîte le suit. Tu vois, c'est-à-dire que ses patrons, ils disent ok, il a décidé qu'il faisait ça, on le suit, c'est lui qui a décidé.
Oui, après le 4 quand même, il récupère quand même une certaine assurance, hein, il a quand même une place, ça fait déjà longtemps qu'il est chez Capcom. Mm-hmm. Donc il va vraiment laisser de côté la série et elle va vraiment dormir pendant 10 ans, à part le petit reboot qui sera fait chez Ninja Theory. Hein, c'est l'époque où Capcom essayait de développer des choses avec les Occidentaux pour essayer de continuer d'exister sur ce marché. Alors bon, voilà, le reboot, il est ce qu'il est, il reprend un petit peu l'esthétique de DMC, mais... Bon, sur le gameplay, c'était peut-être pas vraiment... dans la philosophie, c'était peut-être un petit peu différent de ce qu'avait apporté jusqu'au quatrième épisode, en fait, la série.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, bon, de toute façon, on va l'expliquer en long, en détail, dans tout l'épisode, mais c'est vrai que Devil May Cry, c'est vraiment l'illustration d'une approche du jeu vidéo et du jeu vidéo d'arcade et du système de jeu de combat avec une grande profondeur qui est très japonaise dans son approche. Ouais. Et Ninja Theory, ils ont fait un jeu qui est pas inintéressant, hein. Je considère pas que ça soit un mauvais jeu en soi, c'est juste que bon, ça a pas grand chose à faire avec le nom Devil May Cry, mais voilà, c'est beaucoup plus proche d'une approche très cinématique, très God of War, très grand spectacle. Il y a une petite profondeur de gameplay, mais on est à des années-lumière de ce que pouvait faire justement un DMC 3 ou un DMC 4, qui étaient des jeux quand même très très riches en termes de combos, en termes de difficultés, et en termes, tu sais, de comment on dit, de progression, quoi. Il y a vraiment quand tu commences à jouer à ce jeu et que tu commences à te rendre compte de la profondeur que ça peut avoir, tu as des kilomètres à gravir avant d'arriver au sommet, que bon, DMC, Devil May Cry, tu en faisais vite le tour, malheureusement. Mais c'est pas inintéressant, c'est à faire, quoi.
Et d'ailleurs, en fait, Capcom va vraiment se poser la question de se dire, bon, bah voilà, maintenant qu'on a on a d'un côté ce reboot et on a de l'autre côté bah, la série un peu plus canonique, et ils vont vraiment se dire, bon, bah écoute, le reboot, c'est pas grave, on va le mettre de côté et on va vraiment prolonger ce qu'on a continué à faire avec la série. Et Itsuno, lui, il revient vraiment en 2015, après avoir fait justement son Dragon's Dogma, et il se dit, bah je sais ce que j'ai envie de raconter avec ce cinquième épisode. Du coup, il réunit son équipe, il les emmène dans une espèce de petite villa à la cambrousse japonaise, et il leur explique vraiment sa vision, qu'est-ce qu'il a envie de raconter, d'abord avec toute cette histoire autour de Nero et cette espèce un peu de passation de pouvoir qu'on va pouvoir observer dans le 5, et puis surtout en termes de gameplay aussi, de construction, qu'est-ce qu'il veut faire avec cet épisode. Et voilà, encore une fois, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé cette conf et qu'il raconte ça, cette espèce de grande planification, cette réunion avec ses équipes, tu vois, le mec qui dit, bon bah voilà ce qu'on va faire et on va rester sur cette route parce que je sais ce que j'ai à raconter, ça montre quand même une certaine expérience. C'est-à-dire que c'est un director qui est quand même là depuis très longtemps chez Capcom, hein. En 2015, ça fait quoi, 23 ans, plus de 20 ans qu'il est chez eux.
Ouais, il est crédité sur des jeux qui sont sortis dans les années 90, ouais. Tu sais, il est sur Street Fighter Alpha, des trucs comme ça, c'est un vieux de la vieille.
Donc c'est un mec qui a vraiment, je pense, confiance en son game design et en sa façon d'approcher les jeux. Et vraiment, bah, je trouve qu'on on le sent vraiment dans, dans Devil May Cry 5. Moi, ça m'a surpris, en fait, cette confiance qu'ils ont en eux-mêmes, cette façon qu'ils ont de savoir où ils veulent nous emmener. Le jeu est très bien construit, très bien cadré, et tu sens que c'est des gens voilà, qui ont de la bouteille et qui savent clairement ce qu'ils veulent faire avec leur série. Et de toute façon, bah, ça portera ses fruits, hein, parce que voilà, la série, elle est vraiment revenue pas d'entre les morts, mais on attendait peut-être pas forcément un Devil May Cry 5 en 2019, et pourtant bah, le jeu s'en sort très 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 bien. C'est d'ores et déjà l'épisode le plus vendu de la série, puisque je crois qu'il est à... On avait noté combien, Maxime ?
3 millions.
3 millions, ouais.
3 millions 1, 3 millions 100 000 exemplaires. Et encore, ça, c'était les chiffres qui datent de... d'un moment,
mois,
en plus.
Hein,
c'est
crois,
pas les...
Ouais, ouais, c'était fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises.
Donc ouais, on n'a pas encore les chiffres actuels, c'est possible qu'il ait encore gravi les échelons. Et puis même, le retour critique a été très très positif, hein. Je crois qu'on est sur du 89 sur Metacritic, donc on est presque dans la tranche des 90. Donc c'est vrai que c'était vraiment une surprise. D'ailleurs, moi j'étais pas vraiment c'était pas un jeu que j'attendais. Toi Benoît, tu m'en avais dit beaucoup de bien au moment où tu l'avais fait, et c'est vrai que bah, au fil de l'année, voilà, en action game, il n'y avait pas beaucoup d'équivalent de d'autres concurrents, en tout cas, qui pouvaient prétendre à ce titre-là, et du coup, bah, je l'ai fait, moi, juste en fin d'année, en décembre, et c'était vraiment très chouette, et c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de cet épisode. Mais avant, on va rentrer dans le jeu par son histoire, par l'histoire de Devil May Cry, la saga, je pense que c'est vraiment
cette
le mot
épopée,
qu'il faut...
L'Odyssée de Dante.
Alors bon, toi Benoît, t'as quand même fait les premiers épisodes de la série, ce sera toi notre grand archiviste. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, c'est quoi les bails entre Devil May Cry, à part le fait que c'est deux mecs, deux frères, Dante et Virgil, qui veulent se mettre sur la tronche? Est-ce qu'il y a grand chose de plus à raconter pour poser les bases avant
pas,
ce cinquième
pas épisode? Beaucoup, ce qu'on peut dire c'est qu'en gros Devil May Cry c'est le nom de l'agence de chasseurs de démons de Dante qu'il fabrique à la fin du premier épisode, hein, quand il découvre en fait son héritage, le fait qu'il est le fils d'un démon qui s'appelait Sparda, et c'est pour ça en fait qu'il fait des virevoltes et qu'il fait des sauts périlleux et qu'il est très très fort et que voilà. Je saurais pas te raconter ce qui se passe par la suite, c'est toute une longue suite de méchants, tu vois, il y a des mecs qui s'appellent Mundus qui apparaissent, qui veulent tuer l'humanité, voilà, c'est des grands
bien
méchants.
Sûr. Bien
en,
sûr.
En filigrane, il y a toujours effectivement cette opposition, je pense qu'ils ont voulu donner un souffle un peu épique justement à cette histoire, et il y a donc le fameux Virgile qui est aussi un fils de Sparda et qui veut en fait tout simplement prendre l'ascendant sur son frère et montrer que c'est lui le véritable héritier. Donc c'est voilà, c'est le duel fratricide, on le disait, c'est Naruto, c'est Sasuke, on la connaît cette histoire.
Oui,
et
c'est vrai.
Régulièrement, ils se mettent sur la tronche, mais ça ne donne rien. Avec le quatrième épisode de DMC, ils introduisent donc le personnage de Nero, qui lui est un humain qui défend également l'humanité contre les démons au nom de l'Église, mais évidemment, il réalise en cours de route qu'en fait, c'est lui aussi le petit-fils de Sparda. Il a aussi sang de démon. C'est pour ça que lui aussi est virevolte et il a trop la classe.
Et qu'il a les cheveux blancs, tout
et
ça.
Et qu'il a les cheveux blancs et tout ça.
Il a le mojo aussi, comme les autres.
Ah bah oui, bien sûr. Non mais tu vois, c'est vraiment, c'est génétique chez eux, hein, c'est dans la famille.
Donc, si jamais vous êtes né avec les cheveux blancs, il est possible que
vous
voilà,
soyez
vous
ayez, voilà, si vous avez une épée gigantesque qui apparaît à chaque fois que vous êtes énervé,
c'est
possible.
Si votre enfant fait des pirouettes, c'est un démon.
Pardon. Bref,
en
tout cas, dans DMC4...
Il y a beaucoup de parents confinés là qui sont en train de se dire que, que leurs enfants sont des enfants de Sparda.
On va voir des vidéos sur TikTok, tu sais, à cause de nous, à cause du pouvoir de fin du game. Non, mais bon, blague à part, DMC4, effectivement, voilà, on découvre Nero, c'est un personnage qui lui aussi est lié à Sparda, on apprendra dans le 5, c'est le gros twist, que en fait c'est le fils de Virgile et non pas le fils caché de Dante, on aurait pu croire ça. À la fin du 4, en fait, avec Dante, tous les deux, ils sont toujours dans la même agence Devil May Cry et il sauve l'humanité. C'est comme ça que c'est précisé dans le récap officiel que je vous recommande de regarder. Voilà, vous tapez récap officiel DMC, Capcom a fait une vidéo qui résume tout ça, donc c'est sympa de leur part.
Et qui est fait avec un peu plus de sérieux que ce
qu'on
vient de faire jusqu'ici. Non mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, même si cette histoire, je pense que chez Capcom, ils ont vraiment conscience que voilà, c'est un petit peu over the top, qu'ils la prennent un petit peu au second degré, Itsuno, il avait quand même vraiment envie de raconter cette histoire autour de Nero, cette espèce de passation de pouvoir qu'on va pouvoir observer là pendant l'épisode. Et vraiment, il l'a construit... Il l'a construit, il raconte une anecdote assez rigolote où il regardait une espèce d'animé où il y a un espèce de grand méchant et ses trois robots qui se réunissent pour battre le grand méchant. Et ce moment-là l'avait beaucoup ému et du coup il s'est dit bah voilà, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de le reproduire dans mon jeu, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup bah, il va créer en fait trois personnages qu'on pourra jouer tout au long du truc. Alors il va pas les créer, c'est peut-être pas le bon mot puisqu'ils étaient déjà là, mais en tout cas il va nous faire vivre cette histoire via les trois points de vue de ces personnages. Donc Nero qui va découvrir un petit peu encore plus son héritage, qui va apprendre donc qu'il est le fils de Virgil, Dante qui lui bah, continue à faire son petit taf et qui se prend pas trop la tête, et puis il y aura le personnage de V qui au twist est en fait une partie de Virgil, parce que Virgil en avait marre, il arrivait pas à battre son frère, du coup il sacrifie sa partie sensible, humaine, sa partie
crois,
faible.
Ouais. Ouais, c'est ça, je crois, c'est un que truc comme humanité, ça. Hein. Je crois,
ouais, il s'est fait Yoshimitsu là avec son sabre.
Ouais, c'est ça, exactement. Il se fait Yoshimitsu.
Il a séparé sa partie humaine de sa partie démoniaque pour essayer d'être encore plus fort et de réussir enfin à surpasser son frangin.
Et du coup, bah, il se transforme en espèce de maxi-démon, hein, c'est Urizen, hein, c'est ça le nom du gros démon, dont la stratégie est de planter des espèces de graines qui pompent l'énergie vitale de je ne sais quoi, et il va pouvoir
humains,
en manger
comme
le fruit. Voilà, il va pouvoir en manger le fruit et devenir encore plus puissant. Mais au final, bah, on va arriver à le combattre. Alors on va avoir de nombreuses fois, on va se confronter à lui et on va échouer. D'ailleurs, le jeu s'ouvre là-dessus, hein, puisque c'est Nero qui échoue à vaincre Urizen. Dante s'y casse les dents également, mais
et
au
on
final...
pense même qu'il est mort. Hein, tu vois, le début du jeu, il y a quand même un espèce de suspense où on pourrait te faire croire que Dante est mort. Hein.
Quel suspense, les trois personnages sont sur la jaquette et pourtant peut-être un des trois est mort.
Il s'appelle V et en fait c'est Virgil.
Ah là là. Bon, voilà les twists qu'on avait vu venir dès le début du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, bah voilà, au final, le jeu va nous emmener bah, à ce moment que voulait nous faire vivre Itsuno, où les trois personnages vont un petit peu se croiser, et ça culminera à cette espèce de grande confrontation finale, encore une fois, entre Dante et Virgil, sauf que cette fois, Nero s'interpose. Tonton, papa, s'il
Arrêtez.
Vous plaît, ne vous battez pas, mangeons une pizza tous les trois. Mais avant ça, il va quand même tabasser la tronche à son père pour lui montrer que voilà, maintenant il a son. Voilà, maintenant
gros,
c'est un
il...
grand garçon.
Mais c'est intéressant parce que du coup, toute cette séquence là où il les sépare, bah, du coup, lui, en fait, Nero, il découvre, il accepte enfin son pouvoir d'humain, d'ange et de démon, tu vois, il débloque une nouvelle forme qui est encore plus forte que toutes les autres. Et en fait, quand on regarde la forme, quand il les sépare comme ça toutes les deux, ça représente les ailes, tu vois, c'est le logo du 5. Ça refait justement ce logo en V, et du coup tu vois tout tombe en place, tu vois V, Virgile, V le personnage,
tout
5, le chiffre romain,
c'est...
tu vois t'as le cerveau qui...
Voilà. C'est un peu, c'est l'instant shonen, mais qui est assez, même dans le jeu, tu vois, qui est assez intense, parce qu'on disait que le jeu est très second degré, en tout cas dans beaucoup de ces scènes, et là vraiment elle est très premier degré, cette scène où on voit donc Nero qui court, qui tend le bras, il a son bras qui repousse d'ailleurs, et bah, je dis instant shonen parce que bah, comme vous le savez dans la vie, si vous voulez passer au niveau 2, il faut soit être très 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 triste ou très 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 en colère, il faut se fâcher tout
bientôt
rouge.
Mort.
Oui, ou bientôt mort, ou avoir tout le soutien de ses amis du village.
Exactement.
Et il court vers eux, et là, ouais, il se transforme en espèce de papillon de lumière, et il y a vraiment une musique, il y a vraiment une femme qui chante, enfin, tu vois, c'est censé être le moment émouvant, tu vois, et c'est littéralement juste avant que t'apprennes le move, où il fait un doigt d'honneur, et il se transforme, du coup, dans son truc. C'est un équilibre assez spécial.
Ça ne vous a pas touché?
Pas
j'ai
plus
pleuré.
Que ça, pas plus que ça.
Pas plus que ça, non. T'as pleuré toi Maxime.
Pleuré,
Maxime c'est un peu l'émotif hein, de la team.
Je suis un peu
c'est
le V
général.
De fin du game.
pour te dire, parce que moi en fait j'avais tout pris ça vraiment avec beaucoup de tendresse et d'humour, parce que je me suis dit ils ont un regard comme ça sur leur propre histoire qui est assez marrant, ils arrivent à avoir beaucoup de second degré, et quand toi t'as parlé de cette conférence à la GDC et que je me suis rendu compte que lui il vivait ça au premier degré en mode c'est full sérieux, je me suis dit que je ne comprenais pas définitivement nos amis japonais, parce que pour moi j'ai pas pris ça à la blague, tu vois. J'avais vraiment pris ça en me disant, mais c'est marrant, il se moque un peu des shonen, ça marche bien, c'est drôle, tu vois.
c'est marrant, il se moque des shonen.
Et en fait, non, c'est juste qu'il en faisait un et c'était son truc à lui. Et à la fin, donc, en fait, la fin de DMC5 qui conclut hein, vraiment tout un arc de cet univers, c'est que pour contenir les démons dans leur monde à eux, Virgile et Dante restent dans ce monde-là, ou en tout cas à la frontière entre les deux mondes, entre notre planète et le monde des démons, et ils vont combattre pour toute l'éternité et empêcher les démons démons de venir. C'est-à-dire qu'ils se battent tout le temps, et dès qu'un démon essaye de venir, ils lui bottent le cul ensemble, parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus forts ensemble que séparément. Et donc, Nero, lui, il reçoit en héritage la Terre, et il doit protéger la Terre avec Nico, qui est le personnage introduit dans DMC5, sa copine qui conduit son van, qui est trop
qui
cool.
Est la bricoleuse, hein, ouais. Qui est la bricoleuse, qui est la petite fille du mec qui a fabriqué les armes de je sais plus quoi.
Qui a aussi, il y a du sang de démon apparemment dans Seven, si j'ai quand même bien suivi.
Elle a pas les cheveux blancs, Maxime. Elle a pas les cheveux blancs. Peut-être elle en a quelques-uns.
Elle est brune, on ne sait pas. Ouais. Et sur la toute fin, pour le côté twist quand même, pour aller jusqu'au bout du bout, à la toute fin, on voit Trish et Lady, qui sont deux personnages hérités de Devil May Cry 1 et 2, si je dis pas de bêtises, ou 3, je sais plus, qui se retrouvent à ne plus savoir quoi faire, et il y a le personnage de Morrison, qui est un type qui apparaît comme ça au début de DMC5, qui leur dit « mais j'ai une mission pour vous ». Et donc peut-être que c'est un indice, tu vois. Est-ce qu'on aura des épisodes de Devil May Cry avec juste Lady et Trish? Est-ce qu'elles auront droit à leur épisode spin-off? Est-ce qu'elles auront droit à leur série Netflix? On ne sait pas.
Non, mais je reviens par contre un petit peu sur Nico, parce que c'est un personnage qu'on a tous les trois assez apprécié, parce qu'elle est quand même vraiment cool. Déjà, il y a un chara-design qui change vraiment, justement, par rapport à Trish et je me souviens même plus son...
Lady,
c'est vraiment... Voilà, tu vas me faire plus générique, hein, je veux dire, c'est le personnage de Kojima, hein, c'est vraiment...
Et... ah, doucement, s'il te plaît, sur mon cher Hideo, mais non, vraiment, je trouve on a beaucoup aimé ce personnage, parce qu'elle a un chara-design qui est différent. Elle a ce caractère très taquin qu'elle a avec Nero, et c'est vrai que ça marche bien, la petite dynamique qu'ils ont entre les deux. Et puis surtout, elle a cette façon de toujours débarquer dans chacune des situations avec son camion. Elle arrive et elle défonce tout au moment où elle attend pas. Tu sais, tu rentres dans les petites cabines téléphoniques et tu fais allô, et là, bim, il y a Nico qui débarque. Et voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez rafraîchissant, je pense, de la série, et qui lui permet de bien rentrer dans
l'ère moderne, 2019. On va dire.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Surtout qu'elle profite du RE Engine, qui est quand même vraiment, vraiment magnifique sur DMC5, comme il l'était sur Resident Evil 2 Remake et sur le 3. Bon, voilà, on n'est pas vraiment rentré dans les détails de cette histoire, hein, parce que concrètement, c'est vraiment, encore une fois, tiens, la mission, on va tuer des démons, et c'est pas forcément ce qu'on retient du jeu. Par contre, ce qu'on a tous les trois bien aimé, au-delà du personnage de Nico, c'est vraiment le ton un peu, vraiment, over the top qui a vraiment tout au long du jeu, et c'est en ce sens qu'on pouvait dire que, voilà, Capcom et Itsuno, ils ont bien compris l'ADN de leur série, et ce côté un peu... émo gothique qui pouvait être un peu ringard, qui pouvait nous paraître un petit peu ringard, aujourd'hui ils se le sont bien réapproprié, ils ont bien compris comment en faire et comment en rire, mais en même temps comment le sublimer avec voilà, même la séquence d'intro là où Nero il sort de la camionnette et il tourne dans tous les sens et qui tire sur tout.
Non, mais elle est incroyable, cette séquence d'intro. Enfin, moi du coup je venais de mettre le jeu, tu mets la galette dans la console, tu lances ce truc, tu vois Nero et Nico qui s'envoient des vannes au bout de 5 secondes, tu te dis ok, déjà ça va être marrant. Au bout de quelques secondes plus tard, elle est en train de faire avec les essuie-glaces, elle est en train d'essuyer du sang de démon sur son van, tu te dis déjà c'est bon, on est dans Devil May Cry, et là boum, elle démarre, la séquence au ralenti, c'est vraiment très très bien chorégraphié, c'est avec le nom des créateurs qui apparaissent et tout, tu sens, comme tu le disais tout à l'heure, une confiance, tu vois, vraiment une maîtrise du rythme et de ce qu'ils ont envie de faire et de ce que c'est la série pour eux, et tu sens qu'ils s'éclatent en fait, hein. Vraiment, moi c'est ça que j'ai ressenti tout au long du jeu, ils se sont éclatés à faire ce jeu, et c'est toujours très agréable, parce que toi, manette en main, ça se ressent tout de suite en fait.
Et puis même, il y a aussi la fameuse danse là de Dante, hein, quand on récupère le chapeau, bon voilà, ça c'est quand même assez fou.
La séquence Michael Jackson.
Incroyable, incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces moments-là, et je trouve que c'est plus cela qui fonctionne, parce que là en fait, on ne peut que être en connivence avec les... Il y a vraiment cette complicité qui se tisse avec les développeurs, avec cette espèce d'humour, et on en rigole parce qu'eux, ils savent en rigoler, mais en même temps, c'est kiffant, parce qu'ils sont... c'est bien chorégraphié, c'est bien fait en fait dans l'humour, et du coup, ça marche vraiment, et c'est pour ça que voilà, le moment nous a... le moment Nero qui sépare ces deux aïeux là, ça nous a pas vraiment touché, parce que bah, on n'est pas dans cette espèce d'esprit là, on peut pas aller dans l'émotion. Alors peut-être qu'ils auraient pu le faire, hein, c'est possible de faire des ruptures de ton, mais malheureusement le jeu ne nous éduque pas vraiment à aller vers ça, et on préfère vraiment rester avec lui dans le second degré et dans le délire.
Bah parce que même s'il est pas très long le jeu, tu vois, sur les 10-12 heures de l'aventure, pendant on va dire 11h30 c'est la déconne, la rigolade, et pendant 15 minutes c'est un peu de sérieux. Forcément t'as du mal à te switcher au niveau du cerveau, parce qu'en plus toi, à côté de ça, entre deux séquences, faut pas oublier que c'est de la castagne, hein, parce que bon, Devil May Cry, ça reste avant tout de la castagne.
Oui, de toute façon, ce côté second degré, c'est vraiment la bonne tonalité, hein, puisque c'est déjà ce qui nous fait accepter, comme l'a dit Hugo, tu vois, un peu tout ce chara-design qu'on pourrait ne pas aimer, un petit peu émo-gothique, tu vois, qu'on pourrait trouver peut-être un poil cringe. Les musiques aussi, en fait, moi, les musiques, c'est marrant parce que je les aime bien dans Devil May Cry 5, et jamais de ma vie je les écouterai ailleurs. Enfin,
il faut assumer, Max, mais... il faut le dire, tu peux nous le dire.
Dans DMC5, franchement, j'aime bien, tu vois, même les phases avec V, je trouve que ça lui correspond bien. Et V aussi, tu vois, c'est vraiment...
Il est très cool, ce perso.
Il est en mode prince des ténèbres et tout. Enfin, ce serait hyper cringe si c'était que du premier degré.
Et de toute façon, ce second degré, c'est vraiment ce qui leur permet, en fait, de donner vie à toute cette action. Vraiment ce cocktail d'action pure, ce côté vraiment beat them all foufou et stylé qu'est Devil May Cry depuis le début. Et vraiment, en fait... Quand tu joues à ce jeu, alors bon, moi j'avais pas forcément fait les premiers, mais c'est vrai qu'il a cette espèce d'équilibre particulier parce qu'il paraît complètement anachronique, parce que c'est vraiment la même recette que le premier et que tout ce qui a été fait Devil May Cry, mais en même temps, bah, ça a encore complètement sa place aujourd'hui. Et déjà, ça passe par quoi ? Ça passe vraiment, je pense, par la science qu'a Capcom et Itsuno de faire des jeux d'action, tout simplement. On l'a dit tout à l'heure, Itsuno il a bossé sur Street Fighter. Et en fait, DMC, c'est vraiment cet héritage-là, en fait, cet héritage de l'exécution extrêmement précise, d'une animation qui est vraiment très très soignée, des impacts, des feedbacks qui ont vraiment du punch. Là, on s'était amusé à re-regarder un peu une séquence et, tu sais, de vraiment décortiquer tous les petits feedbacks qui se passent quand tu tapes. Toi, t'avais regardé, Benoît, tu sais, il y a un petit clignement de larmes, effets particuliers ici et là.
Si tu veux t'amuser à vraiment reprendre séquence par séquence la quantité d'informations à l'écran qui sont lâchées à chaque coup, parce que donc il y a une espèce de lueur qui sort de l'arme, tu vas avoir un flash lumineux, mais tu vas avoir aussi toute la scène qui va être éclairée instantanément, comme si tu avais allumé une lampe et que tu l'avais éteinte aussitôt. Le jeu, en fait, distille en permanence des tonnes et des tonnes de petits, de petits trucs très cool, hein, qui vont taper directement dans ton cerveau et qui te disent, là c'est bien, ça ce que t'es en train de faire c'est bien. Et évidemment, par-dessus, ben, y a tout ce côté exécution, comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment l'héritage du jeu de baston. Pour moi, DMC, c'est un mix entre le jeu de baston d'un côté, Street Fighter et tout, et l'arcade, vraiment old school, avec ce côté scoring qui est transformé, en fait, hein, dans DMC par le système de score et de style, en fait. Plutôt que de te mettre un score, ils te mettent un truc de style, mais ça reste la même idée, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour te pousser à te dépasser, et en plus de ça, bah, le jeu va tout faire pour que tout ce que tu vois à l'écran, ça soit plaisant, et que tu sois récompensé pour tous ces efforts que tu fournis.
Et ce score, c'est des gros feedbacks aussi qui s'affiche à l'écran avec chaque lettre, donc ça part de, on l'a déjà dit, mais de 2D ou E jusqu'à triple S, et chaque lettre correspond à, en plus t'as un petit mot, tu vois, qui va sortir, je sais plus ce que c'est, mais peut-être que A c'est genre amazing, ou B c'est peut-être brutal, tu vois, je sais plus du tout, hein. Mais en tout cas, je me souviens que triple S c'est smoking sexy style, et tu vois, t'as ces trucs là qui apparaissent pendant que t'es en train de te battre, donc ça aussi c'est un truc qui te rend hyper nerveux. Et j'avais vu un documentaire, c'était sur la chaîne YouTube Archipel, qui s'appelait anciennement Toco Toco, qu'on a déjà pu citer peut-être dans un épisode, et il y avait un épisode donc sur Devil May Cry 5 et Resident Evil 2. Et on voit Itsuno au bureau, ils ont vraiment... donc ils ont une petite borne d'arcade où ils peuvent jouer à Street Fighter de temps en temps, mais il y a aussi une console où ils jouent à Ghosts and Goblins, beaucoup, et apparemment c'est un petit rituel, tu vois, d'y jouer, de noter un petit peu sur un papier ton retour d'expérience, que t'as ressenti à tel moment, est-ce que t'as été frustré parce que est-ce que au moment où tu perds, est-ce que tu vas plutôt... accuser le jeu, ou est-ce que tu vas t'accuser toi, en fait, d'être responsable de ça? Enfin voilà, c'est un petit peu toutes ces petites études de cas, en fait, qui vont vraiment déverser dans une licence comme Devil May Cry.
Mais ça, tu vois, j'avais pas l'anecdote en l'occurrence, mais ça me surprend pas, en fait, parce que du coup, ça me choque pas, parce que Capcom, tu sens bien que c'est un studio qui aime bien revenir un peu à l'essence de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils ont toujours été. Et c'est vraiment des trucs où, comme tu le disais, voir en 2019 un jeu comme DMC avec... il faut bien se dire que, tu vois, dans l'exécution, il y a tout un tas d'animations que tu ne vas jamais découvrir quand tu vas faire le jeu la première fois, et il y a tout un tas de subtilités que tu vas découvrir que fur et à mesure. Et ça, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans l'esprit de l'arcade, tu vois, des petits secrets, des petits twists, des petits trucs où tu vas découvrir que Mario, si tu le mets sur un pixel, il peut ressauter, tu vas pouvoir faire des petits trucs, ou peut-être que Arthur, dans Ghouls and Ghosts, il peut faire des choses assez particulières. Et moi, savoir que Capcom, comme ça, ils étudient ce genre de jeu encore aujourd'hui pour essayer de trouver quelque chose et comment le diffuser dans des jeux plus modernes, je trouve que ça résume bien, en fait, leur approche du jeu vidéo qui est finalement assez cohérente, hein, d'année en année. On voit bien que c'est ça qu'ils essayent de garder tout le temps, quoi.
Et d'ailleurs, Itsuno, tu vois, il a une certaine vision du jeu d'action, hein, qui est, j'imagine, vraiment la même depuis le début, où il dit que lui, tu vois, c'est pas juste taper sur des boutons et c'est bon, ça fait des combos tout seul à l'écran et c'est très joli, c'est pas juste du feedback et des belles choses qui se passent à l'écran. Il y a cette notion de faire des choix, d'avoir face à toi un éventail de possibilités, de décider de faire telle chose et puis telle chose et puis telle chose. Et ça, pour vraiment pouvoir atteindre ça, donc déjà il faut, comme j'ai dit, un éventail de possibilités, mais dans un premier temps il faut le faire digérer un petit peu. Donc il y a quand même aussi toute cette notion que tu vas débloquer des coups au fur et à mesure, tu vas débloquer aussi de l'argent pour pouvoir les acheter, tu pars vraiment avec un perso un petit peu de base, et ensuite tu vas commencer à pouvoir composer un petit peu avec toutes ces différentes parties en fait, qu'on t'offre.
Je trouve que ce qui illustre très bien ça, c'est le deuxième combo de base en fait que t'as sur tous les persos. En fait, le premier combo de base, t'appuies à un rythme très régulier sur le bouton tapé, ouais. Et t'as un deuxième combo où tu dois faire une pause. Tu sais, tu dois faire 1, 2, tu t'arrêtes, et après tu retapes, et du coup ça va enchaîner sur un autre combo. Et ça, pour moi, ça représente toute la subtilité en fait de ce jeu d'action et de ce que tu dis, tu vois, sur cette histoire de choix, parce que c'est vraiment on te donne vraiment une arme et qui est juste une question de timing, tu vois, mais le fait que tu puisses breaker une animation, que tu breaks un peu ton rythme et que tu reprennes sur un autre, bah ça te permet de faire un choix. Et je trouve qu'en fait, dans toute leur façon qu'ils ont de faire, et c'est vrai pour tous les personnages, alors c'est encore beaucoup plus vrai pour Dante, parce que on viendra un peu dessus, mais c'est clairement celui qui a la plus grosse tartine de possibilités à sa disposition. Mais déjà avec Nero, en fait, dès le début, tu peux sentir ces petites subtilités, et ça, c'est vrai que c'est pas facile à apprendre, hein, quand t'es vraiment un newcomer, hein, quand tu débarques comme ça dans le jeu d'action. Moi, dans le beat'em all, moi le seul que je peux connaître, c'est Bayonetta. J'ai fait Bayonetta 2, qui ont été faits justement par Camilla, donc ils sont vraiment les cousins, hein, de Devil May Cry.
Mais du coup, cousine.
Ou les cousines, effectivement, Jeanne et Bayonetta.
Jeanne et Bayonetta, tu vois, Dante, Virgile.
Oui, bon, c'est encore une fois, c'est vraiment un jeu jumeau, limite, hein, je pense qu'on peut clairement le dire. Grande histoire, grande saga aussi, je crois qu'on peut le dire.
Je ne raconterai pas l'histoire de Bayonetta.
Non, je ne le ferai pas. Contractuellement, on n'est pas obligé, c'est pas l'épisode, c'est pas sur celui-là. On le fera peut-être pour le 3, on verra. Non, mais ce qui est, malgré tout, tu vois, j'ai dû vraiment rentrer dedans, et c'est vrai qu'au début, il te donne très 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 peu d'outils, hein, t'as vraiment juste un saut, juste un combo, juste éventuellement pouvoir faire le truc en arrière pour soulever les ennemis, et c'est tout. Et vraiment, au fur et à mesure du jeu, tu vas débloquer, apprendre, mais c'est parce que toi, t'as besoin de ça, en fait, pour pouvoir assimiler toutes les possibilités que le jeu va t'offrir. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, c'est que toute une partie de DMC5 n'est pas suffisante pour pouvoir assimiler tout ce que le jeu il a à nous apprendre. Max, je crois qu'on l'a vraiment vécu de la même façon. Quand on a débarqué avec Dante, on a été genre, what? Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'il a à sa disposition, ce perso? Parce que voilà, ce truc des quatre
stances.
C'est complexe quand même, ouais. C'est un système qui est vraiment complexe et qui était tout un jeu, voire deux même, enfin il y avait le 3, et puis dans le 4 aussi j'imagine qu'on le retrouvait...
identique, hein, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a toujours les mêmes coups, en tout cas avec son arme de base, donc qui est... Oh, j'ai oublié le nom, j'allais dire corruption, mais j'ai oublié le nom de son épée...
Rébellion, il n'y a pas un truc...
Ouais, c'est un truc. Ah, ça m'énerve parce que je trouve ça fou de plus penser.
Ça doit être un nom à la con, genre Démonia ou un truc.
Ouais, non, ou Rédemption, ou je sais plus comment elle s'appelle, son épée. Mais ça m'embête de pas la retenir. Je le saurai une fois qu'on aura fini l'épisode. Mais en tout cas, voilà, il a les mêmes coups depuis DMC3. Il avait les mêmes dans DMC4. Et c'est vrai que j'imagine que pour quelqu'un qui découvre la série, Nero, qui est un personnage assez complet mais relativement simple à avoir, V, qui est un personnage très très simple pour le coup, lui, je pense que c'est vraiment le personnage qui a été imaginé.
Différent,
pour,
mais très simple. Ouais. Il est surprenant dans sa manière de jouer, surtout après Nero, hein, parce que tu commences le jeu avec Nero, mais c'est vrai qu'il est pas extrêmement complexe, on doit vraiment pas autant que les...
Mais tu peux très vite comprendre comment débloquer des choses assez, assez subtiles et assez fun à faire avec V, et là d'un coup il te file Dante, et en plus en l'espace de 3-4 heures il va débloquer tout son arsenal habituel, son épée, ses nunchaku, ensuite ça va être son bâton, ensuite il y a ses poings, et puis à un moment il se dit je vais prendre une moto, je vais la couper en deux, puis je vais me battre avec, parce qu'après tout, pourquoi pas, et ça en plus ça marche super
ça,
bien.
C'était
c'est une de mes armes préférées.
C'était une
mais...
idée qu'ils avaient depuis. C'est une idée qu'ils avaient depuis longtemps. Hein, la moto,
oui,
hein, c'est toi Max qui avait lu ça.
Oui, de mémoire, c'était genre dès le 2 ils y avaient pensé, mais bon voilà, c'était développement chaotique, etc. Dans le 3 ils voulaient la mettre, mais voilà, encore question de budget, patati patata. On la voit dans une des cinématiques quand même où ils s'amusent un peu avec une moto à faire un peu du limite du nunchaku, tu vois, avec c'est un peu n'importe quoi. Et là ils se sont dit c'est bon le 5 ils ont dit c'est maintenant la moto, on la fait maintenant, tu vois, c'est vraiment ils ont réalisé un fantasme qu'ils avaient depuis longtemps.
Je vais juste revenir avant qu'on enchaîne pour parler de cette idée de faire des New Game Plus et de rejouer constamment ouais. au jeu pour ouais. pouvoir s'améliorer. Ce qui est très intéressant dans le game design de Devil May Cry et qui est vraiment sa spécificité, c'est que cette histoire de style, c'est par ce système de score et de feedback et de retour très positif, tu vois, qui encourage le joueur à se dépasser et à chercher la diversité, qui vont te forcer à justement ouais. Faire autre chose avec tes doigts que juste marteler la même touche. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si vous écoutez comme ça l'émission en vous disant, bon bah, si je fais Y, Y, Y ou Y, 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 il n'y a pas grand chose de différent. Il faut s'imaginer ouais. qu'il y a de la musique, il y a des trucs visuels, il y a des démons qui essayent de nous tuer. On est dans une espèce de... Il y a quelque chose de très viscéral, de très nerveux quand on est en train de jouer au jeu. Donc on peut vite se laisser entraîner par cette violence. Et le jeu, en fait, son système de score, c'est là pour nous empêcher, entre guillemets, de céder à la panique et de juste faire n'importe quoi avec ses touches et de nous apprendre la rigueur. Et c'est ouais. à travers cette rigueur-là qu'on va apprendre à s'exprimer.
On va trouver son style.
Ouais, voilà. On va trouver son style. Et moi, je suis vraiment toujours aussi admiratif. C'est un jeu que j'adore de tout mon cœur parce que justement, la série elle-même, je l'adore parce que justement, on a une forme d'esthétique et de liberté d'expression à travers ces combos et ces trucs-là qu'on a dans très peu de jeux. Et moi qui suis incapable de jouer à un jeu de combat parce que je suis complètement hermétique aux mécaniques d'opposition, là, vu que je suis face à l'ordinateur, ça marche et ouais. je ressens vraiment tout ce plaisir de parvenir à faire le bon combo, le bon truc, de m'amuser avec l'ennemi, tu vois, de continuer à le faire jongler en l'air, etc. Et c'est rigolo parce que ce système de style qui est vécu comme une espèce d'héritage, tu sais, d'appendice de tu vois, un reste de l'arcade, en réalité c'est ça qui donne toute la diversité du jeu.
Ça marcherait pas sans.
Ça marcherait
si
pas sans. Tu vois, j'aime
si
beaucoup.
Si ces lettres-là, ouais. Ça, moi aussi.
J'aime beaucoup les allers-retours qu'il y a en permanence entre le « Ah, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi et le jeu me le fait
ouais,
comprendre
ouais,
parce
ça,
que ma note, elle
ça.
Redescend. Donc, je vais me sortir un peu les doigts, je vais me re-rappeler. Tu vois, je ne vais pas céder à la bête, hein, je ne vais pas céder au poison, comme l'ont dit le chaîne YouTube que je vous recommande, Game Next Door. Et je vais rester maître un peu de mon combo et je vais rester dans la réflexion. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Et c'est quelque chose qu'on ne ressent quasiment que dans Devil May Cry.
Non, mais surtout que ça ne marcherait pas sans, parce que le jeu ne serait pas... Enfin, pas fun, c'est pas un mot que j'aime bien, mais il ne serait pas bon si on cherchait pas la diversité, en fait. Si on cherchait... Je trouve que c'est vraiment le jeu qui nous dit... Vraiment, croyez-nous, si vous cherchez le triple S, c'est pas une histoire de performance, et vraiment, vous allez comprendre ce qu'on veut vous faire vivre, en fait, avec cette espèce de panel de possibilités, toutes ces possibilités d'attaque. C'est vraiment ça qu'on va pouvoir faire.
Et justement, pour parvenir à tout ça et à toute cette diversité, tu peux pas y arriver en faisant le jeu une seule fois. T'es obligé de le recommencer. Et ça, Max, toi, tu pourras en parler. C'est un truc qui t'a un peu surpris parce que c'est pas forcément quelque chose auquel tu adhères. Mais voilà, c'est vrai que Devil May Cry, quand tu le commences, même aujourd'hui, même si t'as 20 ans d'expérience, tu n'as accès qu'au mode facile et au mode normal et tu ne débloques pas le vrai mode de jeu. Hein, de l'aveu même de Hitsuno, il considère que le mode Son of Sparda, qui est le mode de difficulté que tu débloques en ayant fini le jeu une première fois, c'est là où c'est le plus fun, c'est là qu'est pensé le jeu tel que eux, ils l'envisageaient. Tu ne peux pas y accéder dès le début parce qu'ils veulent que tu passes par cette phase d'apprentissage pour être sûr que tu aies, on va dire, toutes les bases nécessaires pour t'éclater et comprendre ce que le jeu il te propose, quoi, pour de vrai.
Ouais, il y a ce parti pris complètement assumé que le jeu, enfin, ta première partie, c'est le tuto, en fait. Que quand tu auras terminé, t'es censé... pour maîtriser le jeu, t'es censé le refinir et potentiellement le re-re-refinir, le re-re-refinir, à savoir, enfin, c'est typiquement, tu vois, les gens qui adorent la licence, ils te le disent, tu vois, c'est les premiers à te dire, bon, par contre, voilà, faut que tu le finisses 2, 3, 4 fois. Voilà, moi, après, c'est pas. Moi j'aime pas relancer des jeux, j'aime pas refaire des jeux, donc c'est vrai que c'est un truc qui me dérange un petit peu. Moi, spontanément, j'ai envie de me dire, bah, vous me faites un jeu qui dure plutôt 15 heures, en fait, et voilà, la courbe de difficulté. Et à la fin, je vais maîtriser les persos, tu vois. On parlait de Dante. Oui, ça, il y a un nombre gargantuesque d'armes qui s'enchaînent, en fait, vraiment. Il y a un moment, j'avais débloqué le chapeau, non, c'était la moto, ensuite le chapeau, ensuite les nunchaku, et en fait, j'étais déjà, enfin, les stands, déjà, j'en retenais que deux, tu vois, pour pas avoir les quatre à retenir sur chaque arme, puisque chaque chaque arme t'amène de nouvelles combinaisons avec les stances, en fait, donc vraiment, ça, t'as un effet, vraiment, à chaque fois que t'as une arme, c'est, t'as pas juste les moves de base, t'as en plus deux stances qui viennent changer, potentiellement, quand t'es en forme de démon ou d'ultra-démon, je sais plus trop quoi, peut-être que ça en rajoute encore plus, je sais plus, parce que, non, je l'ai pas fait trois fois,
c'est pas grave, mais ça t'empêche pas de t'amuser.
Oui, vois, voilà, bien sûr, et surtout, en fait, je l'ai réalisé, tu vois, je l'ai compris, il y a ce côté investissement personnel, en fait, où à la fin, quand j'ai terminé le jeu, j'ai juste rejoué quelques heures, mais je savais que je maîtrisais pas Dante complètement. Je savais, j'ai compris que j'avais que touché du doigt, en fait, toutes les possibilités du jeu, tous les combos, tous les éventails. Et le jeu, je comprends qu'il te dit un petit peu, si tu veux maîtriser plus, si tu veux pouvoir faire plus de choix, si tu veux aller jusqu'au bout, faire du triple S tout le temps sur des boss encore plus durs, bah, va falloir jouer, t'entraîner. Tu comprends qu'il te laisse cette porte ouverte, en fait. Moi, j'ai décidé de pas la prendre, mais j'ai compris qu'elle existait. J'ai compris, voilà, qu'il y avait toute cette richesse, en fait, derrière la porte. Mais j'ai dit non, moi, je vais chercher d'autres trésors. C'est pas grave. C'est pas toi, c'est moi. Restons amis.
Voilà. Non, mais le jeu, il te le dit vraiment explicitement parce que c'est vraiment qu'à la toute fin que tu débloques le Devil Trigger de Nero.
Oui, en plus.
Et ça, c'est pas logique, en fait. Enfin, c'est pas logique. C'est logique dans leur philosophie de jeu, de justement de te dire ça. En fait, c'est la porte ouverte pour une deuxième partie. Mais dans un jeu occidental qui aurait vraiment une philosophie de dire « Ok, on monte tout ce qu'on a à donner dans une seule partie, parce qu'on sait que déjà la plupart des gens ne finissent pas leur jeu. Alors déjà, quand ils vont au bout, autant leur montrer vraiment, autant leur mettre tout dans la tronche ce qu'on a à leur donner. » Et là, c'est pas du tout le cas. Et il le disait, Itsuno, dans sa conf, il dit « Bah voilà, normalement, au milieu du jeu, t'as débloqué tout ce que t'as débloqué, et ensuite ça va être l'expérimentation avec. » C'est un peu ce qui se passe par exemple dans Doom 2016, c'était un peu ça, c'est les 4 dernières heures de jeu, c'est vraiment voilà, t'as tout ce que t'as à ta disposition, maintenant enjaille-toi. Alors que DMC, c'est pas ça, au dernier chapitre, tu débloques encore un truc, et ça te donne vraiment, comme tu dis Max, vraiment une porte ouverte vers tout un nouveau jeu. Et autant V, je pense qu'en une partie, tu peux arriver à peu près à comprendre ce qu'il faut faire. Nero, tu sens qu'il y a encore un petit peu de marge. Mais ouais, Dante, oui, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait que l'entraînement avec lui, parce que il y a trop de choses, quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais comme tu le dis, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à s'en rendre compte. Et surtout, ce qui est fort malgré tout, c'est que même en une partie, tu arrives quand même à t'amuser, à t'exprimer, à atteindre de temps en temps des triple S. Ça, pour moi, c'était déjà... En fait, si le jeu, c'était vraiment qu'un tuto pour une deuxième partie, et c'est à ce moment-là que tu commences à t'amuser, je pense qu'il serait vraiment beaucoup moins bon. Alors que là, justement, avec ces trois persos, ils arrivent à nous faire vivre un truc qui est déjà diversifié et dans lequel on peut vraiment prendre du plaisir de différentes façons.
Et je trouve que ça, c'est un bon plaidoyer contre les gens qui aiment bien répéter, tu vois, que le vrai jeu, il commence à partir d'eux. Parce qu'en fait, dans DMC5, le vrai jeu, il commence au moment où tu appuies sur le bouton Start. On l'a dit tout à l'heure, il commence même au moment où tu entends le nom sur l'écran Start. Donc, comme quoi, ils sont très forts. Mais voilà, c'est pas un jeu. Moi, tu vois, j'ai un truc que j'ai trouvé vraiment très cool de leur part, c'est que si tu choisis de jouer en mode humain, qui est le mode facile du jeu, ils te bloquent pas le système de combo, ils te mettent pas en mode automatique comme dans certains jeux, et tu peux quand même accéder au SSS, tu vois, tu peux quand même y arriver. Et ça, je trouve ça super parce qu'ils ont pas bloqué leur expérience, ils ont voulu simplement l'adapter en se disant, bon, bah, il y a des gens qui vont pas arriver, on veut pas aller plus loin qu'une seule partie, on va leur proposer. Et pour tous les autres, vous avez peut-être senti, vous avez peut-être eu cette intuition, comme le disait Max, qui est cette fameuse porte. Et si vous décidez d'aller derrière, vous allez voir, c'est génial, c'est un parc d'attractions incroyable, vous allez vous faire kiffer. En plus de ça, quelques semaines après la sortie du jeu, ils avaient rajouté le Bloody Palace, qui est historiquement l'endroit où on s'éclate pour de vrai, c'est-à-dire que c'est 101 étages de combat qui s'enchaînent non-stop, de plus en plus difficiles, où tu refais tous les boss du jeu, etc. Et c'est là que tu vas pouvoir vraiment vérifier que tu as bien maîtrisé tout le système. Mais voilà, ils n'ont pas décidé, tu vois, de brider leur jeu et d'empêcher les gens d'en profiter. Et je trouve que ça, c'est vraiment une preuve de sagesse de leur part, de se dire, bah voilà, n'importe qui va pouvoir s'éclater avec notre jeu. C'est pas l'histoire du vrai jeu, c'est juste que, en fait, on a un jeu qui a une learning curve, donc une courbe d'apprentissage qui est tellement longue que on vous en montre qu'une toute petite partie dans une seule, dans un seul cycle. Mais si vous voulez aller au bout, par contre, il va falloir vous accrocher, quoi.
Il y a un autre truc qui fait que tu maîtrises pas complètement le jeu, même après l'avoir terminé une fois, comme on l'a dit, il y a trois persos, il y a trois gameplays différents, donc c'est vraiment beaucoup, même s'il y en a qui sont plus variés, enfin plus complexes que d'autres à maîtriser. Mais du coup, quand tu switches de l'un à l'autre, t'as le temps de rouiller un petit peu, parce que Dante, tu vas pas jouer en fait 6 heures d'affilée avec Dante, c'est pas tu débloques Dante et ensuite tu le joues jusqu'à la fin et peut-être que tu le maîtrises un petit peu mieux. Non, il y a des moments où tu vas alterner avec Nero, avec V, et c'est vrai que du coup, enfin moi j'ai eu des moments où ouais j'ai joué avec V et Dante, le lendemain ou deux jours après j'ai rejoué et j'étais un peu ah oui d'accord, attends faut que je me replonge dedans, les Nunchaku je sais plus trop ce que ça fait, pourquoi est-ce que là ça fait de la foudre et là de la glace, je sais pas ce que j'ai fait, tu
vois.
C'est
vrai.
Donc
selon la forme ouais, ils font pas les mêmes trucs.
Ouais.
Mais c'est là que tu vois qu'il y a justement une subtilité dans les animations. Au début, tu as l'impression que c'est une espèce de bouillie infâme, tu vois, tu ne comprends pas. On le disait dans la préparation, je crois que c'était toi, Hugo, qui disait ça, qu'en gros, quand quelqu'un qui regarderait le jeu pour la première fois ou une vidéo, tu vois, d'un super combo, il ne comprendrait rien à ce qui se passe.
Vraiment.
Alors qu'en réalité, tout est calculé. Il n'y a pas du tout d'aléatoire, il n'y a pas du tout de part d'improvisation dans ce jeu-là. C'est juste qu'il y a tout un tas de subtilités, tu vois, la notion de cancel, le fait de pouvoir annuler une animation avant sa fin pour en déclencher chez une nouvelle, c'est évidemment la base. Et avec Dante, ce qui est compliqué, c'est qu'il a les 4 stances, il a toutes ses armes, mais il a aussi ses armes de tir. Donc en gros, tu peux passer à un coup, t'as l'épée, tu changes, tu finis en milieu de combo avec tes points, puis finalement tu sors tes flingues, et finalement tu finis avec le shotgun ou les lance-roquettes, et tu reviens sur la moto. Et voilà, et en permanence, t'es tout le temps en train de switcher.
Si on s'amusait à faire un arbre des possibles Dante, ce serait des puissances, je sais pas combien, parce qu'il y en a vraiment, vraiment tous les côtés. Mais je reviens un peu à cette histoire de nuances, et moi il y a un truc qui m'a vraiment il y a un moment où en fait le jeu j'ai capté sa profondeur, c'est avec le système de max out là de Nero quand il fait ce vroom vroom sur sa moto là, c'est les Xid là, c'est ça,
sur la le manche en fait, il a une poignée de gaz de moto pour le manche de son épée.
Et en fait, ça, pour moi, ça m'a vraiment mind blow, en fait. Parce que je me disais, depuis un moment, je joue vraiment normalement sans utiliser, mais complètement ce truc, parce que j'avais pas compris ce que c'était. En fait, le système, il est très simple, c'est tu tapes avec un bouton, et ensuite, au moment de l'impact, il faut que tu appuies, il y a une frame sur laquelle tu appuies en fait sur le bouton pour faire l'exit, et en fait ça te charge une espèce de petite jauge et ça augmente la puissance de ta prochaine attaque. Et en fait ça c'était un système qu'il y avait déjà dans le 4, hein, il l'avait déjà fait, c'était juste sur une seule frame, et là dans le 5 ils ont un petit peu assoupli le truc, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette frame parfaite pour vraiment remplir ta jauge à fond, mais il y a aussi quelques frames autour de cette frame parfaite qui sont un peu moins parfaites, qui remplissent un peu moins ta jauge, mais elles vont quand même te donner de la puissance supplémentaire. Et en fait, ça m'a vraiment mind blow parce que je me disais, depuis le début du jeu, j'appuyais sur qu'un bouton pour taper, et maintenant, en fait, faut que j'appuie sur deux boutons, et ça fait plus de dégâts, ça fait des combos encore plus stylés, ça ferait des feedbacks encore plus gros, et surtout, c'est plus efficace, ça marche mieux, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une autre façon de jouer complète, quoi, qui me demande beaucoup plus d'exécution dans les doigts. Et en fait, c'est à un moment-là que j'ai fait, attends, ok, d'accord, j'avais pas compris à qui j'avais affaire, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment ça avec Dante aussi, quand tu jongles avec les stances, avec les cancels et les trucs. Je sais pas s'il y a ça sur V, je l'ai peut-être pas forcément détecté. Alors, s'il y a le fait que tu lis en même temps le livre pendant que tu fais les attaques pour remplir ton Devil Trigger. Mais en fait, c'est ça vraiment en DMC, c'est-à-dire que si tu veux vraiment bien jouer, il faut faire plein de petits micro-choix en même temps, plein de petits trucs sur ta manette, tu bidouilles plein de trucs, et en fait ouais ça peut être le bordel, mais comme c'est toi qui es aux commandes, ça marche, et tu sais ce que tu fais. Et ouais vraiment moi ça m'a vraiment impressionné en fait quand j'ai compris la toutes les nuances qu'il y avait dans, qui étaient cachées en fait derrière des coups normaux, et ça pour moi c'était assez fou.
Ouais, moi je vois ça vraiment comme si on te filait un instrument de musique, tu vois, on va imaginer une guitare où tu vas juste jouer les notes. Et au bout d'un moment, on va t'expliquer qu'en fait, tu vas pouvoir déplacer tes doigts, tu vas pouvoir faire des demi-tons, tu vas pouvoir mettre un gabot pour faire des trucs. Et en fait, c'est vraiment cette idée de l'instrument de musique, je trouve qu'elle fonctionne bien avec des jeux comme DMC ou des jeux de combat, parce que tu peux apprendre les notes, tu vois, tu peux apprendre ta gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ok, c'est cool, mais tu vas apprendre les demi-tons, tu vas apprendre le rythme, tu vas apprendre tout ce qui fait de la musique un truc aussi riche et infini, alors qu'au final c'est un certain nombre de touches noires et blanches sur un piano, et pourtant on n'a toujours pas fini de faire le tour de ce truc là et je trouve qu'on retrouve un peu cette envie là tu vois avec DMC. C'est pour ça qu'on parlait de s'exprimer, parce voilà, à travers ce jeu tu vas pouvoir faire des trucs et voir des gens, quand tu as un minimum de connaissances tu peux ressentir le même plaisir que quand tu vois un virtuose, tu vois un type en train de faire un solo de guitare avec des riffs incroyables, tu pourrais ressentir presque la même chose je trouve quand quand tu vois des super vidéos de combos de
c'est
DMC.
C'est ça. J'imagine quand tu vois les gens qui sont fans de guitare, quand ils voient Slash jouer, ils se disent « Oh putain, il est en train de faire des trucs de foufou avec ses doigts ». Et je pense que c'est un petit peu ce qui se passe, moi, quand j'ai fini le jeu, je suis allé voir les vidéos, genre, voilà, Triple S, toute la campagne avec Dante, et j'ai fait « Ah oui, ok, il y a en fait tout ça qui me sépare de cette personne, mais malgré tout, je comprenais ce qu'elle faisait, j'avais cette espèce de lecture-là, et je comprenais ce qu'il tentait de faire. Je me dis, bon, voilà, moi, jamais, j'ai pas envie d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais vraiment, c'est assez beau à voir. Et comme tu dis, la musique, c'est ça, tu peux un peu composer ta façon de te battre. Et encore une fois, bah, le système de rang t'incite constamment à essayer de t'exprimer, et c'est ça que le jeu veut que tu fasses.
Et pour revenir un petit peu sur V, on a dit que, certes, il était beaucoup plus simple que les autres, il y a beaucoup moins de variété dans ses coups, de choses à apprendre. Moi j'ai quand même adoré juste l'avoir, ouais. Et en plus je trouve qu'il est parfaitement dosé en fait, où il n'y en a pas trop peu, il a pas succombé à ce que font beaucoup de jeux, c'est-à-dire du gros recyclage où c'est bon, ils ont leur nouveau perso et ils vont t'en mettre, ils savent qu'ils en mettent trop mais ils le font quand même, tu vois, pour ajouter un petit peu de durée de vie. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment nickel. Et ce que j'ai vraiment préféré avec V, c'est que c'est une autre approche des combats, parce que c'est du multitasking, tout simplement. Quand tu joues Nero ou Dante, certes, t'as un grand panel, mais ce sera toujours dans un ordre chronologique, en fait. Tu vas toujours, ouais. Ce sera telle branche, puis telle branche, puis telle branche. Donc, ton cerveau, il va juste planifier l'ordre des trucs, mais ça respectera toujours cet ordre. Alors qu'avec V, tu peux gérer plusieurs choses en même temps. Tu peux rester appuyé sur le bouton X pendant que tu fais un combo avec le bouton Y, et toi, tu lis ton bouquin, tu vois. Ou à un moment, tu vas esquiver un mec qui est en train de t'attaquer avec le corbeau qui t'emmène vers l'arrière. En plus, j'aime bien, tu vois, le côté, parce qu'il est assez frêle physiquement, donc il fait pas trop des folies, et du coup le corbeau l'emmène un peu loin du champ de bataille. Toi pendant ce temps tu peux envoyer ta panthère, tu peux envoyer l'espèce de golem, enfin vraiment tu vois, il y a ce côté, tu divises ton cerveau en 2-3 parties, et c'est une façon complètement différente en fait de voir les combats.
On reconnaît le joueur de StarCraft
qui
est Maxime,
la gestion,
je donne les bails.
La gestion et l'optimisation en temps réel, tu vois, du coup j'ai retrouvé un petit peu, tu vois, de ce plaisir de jeu là dans un Devil May Cry, quoi.
Mais V, c'est vraiment une très très bonne idée, hein. c'est un perso, ouais, qui est vraiment très très cool, parce qu'en plus de ça, comme il est à distance, ben, tu profites complètement encore de ce délire esthétique. Ils ont fait en sorte que les mouvements, tu vois, de sa panthère quand elle se met à faire des espèces de scies circulaires et tout, c'est quand même vraiment très gratifiant visuellement, tout ce que tu peux provoquer comme bordel avec tes attaques, et ce côté contrôle de loin, c'est vrai que ça, c'était une très bonne idée, parce que ça te permet d'éviter de répéter, parce que c'est vrai que bon, Dante, rien que Dante, lui, déjà, il explore tellement de trucs dans le combat au corps à corps. Nero, il apporte la petite subtilité avec son bras qui peut attirer ou repousser. Donc ça permettait d'avoir déjà deux philosophies un petit peu différentes. Et V, ils arrivent à créer un nouveau personnage qui est tout à fait pertinent, comme tu l'as dit, et qui nous propose un autre style de jeu. Moi, je l'ai trouvé un peu moins intéressant, mais en même temps, voilà, je suis peut-être moins fanatique de ce délire un peu à la StarCraft. Mais je comprends complètement ce que tu dis dans le côté multitasking, parce que j'ai regardé des vidéos de combo de V, et je me suis rendu compte que je l'exploitais absolument pas comme il fallait. Je prenais un micro pourcentage de ce qu'il est capable de faire en réalité.
Moi, c'est vrai que je l'ai trouvé peut-être aussi, c'est pas celui que j'ai trouvé le plus intéressant, même si je me suis aussi bien amusé, et comme tu le dis, Maxime, c'est très bien dosé. Mais surtout, je suis hyper impressionné qu'ils aient réussi, en fait. C'est-à-dire que c'est pas normal de réussir un troisième personnage qui te demande un mindset complètement différent. Que, tu vois, Nero, comme tu le dis, c'est pas un sous-Dante, mais on est quand même dans cette continuité. Tu vois, il y a vraiment une filiation, j'oserais le dire. Mais par contre, c'est pas normal d'arriver à faire un V qui marche aussi. Tu vois, ce perso, il avait tout pour être le boulet et les passages de jeu que t'aurais pas envie de jouer. Et non, c'est vraiment pas le cas. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment
incroyable. Ça passe
incroyable,
par tout
quoi.
Un tas de petits trucs qui sont très difficiles à déceler et qu'on finit par sentir, je pense, avec les années d'expérience. C'est l'instant, tu vois, entre le moment où tu appuies sur le bouton et le moment où il se passe un truc à l'écran, bah en fait il n'y a pas vraiment de délai entre le moment où ton personnage, quand tu appuies sur le bouton, il donne un coup d'épée par exemple. Bah V, en fait, il a ce même système de réaction, il reste aussi très réactif. Tu vois, ils auraient pu faire en sorte que les animaux ils t'écoutent, mais ils décident un peu, ils font un peu leur vie de loin. Non, ils réagissent quand même plus ou moins au doigt et à l'œil. Une fois que tu as commencé à les lancer dans un un combo, ils vont commencer à vraiment rentrer dans quelque chose de très instantané. Et donc, t'es pas non plus complètement perdu comparé à la réactivité, je pense, et au rythme que tu avais déjà l'habitude d'avoir avec les autres persos, quoi.
Et puis, il faut avoir un certain, un certain regard sur l'ensemble du champ de bataille, parce que pour achever un monstre, il devient blanc, tu vois, avec une petite jauge, et du coup, il faut que tu le repères, que tu le lock, et qu'ensuite tu fasses B, tu vois. Donc, il y a vraiment cette dimension un peu stratégie où il faut pas trop perdre de vue ce qui se passe en fait à l'écran. Donc, il y a beaucoup hein, de mashing de boutons, mais il y a cet aspect de toi, tu lis, tu te regardes toi, tu peux regarder où est ta panthère, où est ton coreback, et dès que tu vois un ennemi qui est en blanc, boum, là, tu dis, ok, je l'ai repéré, je fonce dessus, hop, il se téléporte dessus. Donc, il y a cette notion quand même, pour en revenir, hein, de multitasking et de regarder de loin ce qui se passe, mais qui marche toujours très bien. Et sinon, V, bah, c'est pas la seule nouveauté de Devil May Cry 5, parce que là, on a parlé de tous les autres, on n'a toujours pas parlé bah, du gros apport de ce jeu qui sont les prothèses de Nero, qui a donc le bras coupé, et c'est Nico qui lui fabrique des prothèses qui ont toutes des effets différents, des effets qui sont, j'ai pas l'impression, toujours expliqués vraiment par le jeu, tous les effets différents qui y sont, j'ai l'impression d'en avoir constaté beaucoup en fait en plein jeu. Donc ça, c'est peut-être un truc qui m'a mis un petit peu mal à l'aise quand même vis-à-vis du jeu, en tout cas pour citer un petit point.
On reste un peu dans l'esprit, tu sais, de cette histoire d'expérimentation. Hein. Ouais. Je pense que comme ça t'a gêné, tu vois, de devoir refinir le jeu, par exemple, pour tout voir et aller plus loin, là, on est un peu dans le même délire. C'est-à-dire qu'il y a des effets, des petites subtilités qui peuvent pas te dire. Il faut que tu les constates. Et il y a des trucs, tant que tu as pas ressenti ça manette en main, tu vas pas savoir pourquoi c'est important.
Après, le petit souci aussi, c'est qu'au début du jeu, t'as peut-être pas beaucoup d'argent, et elles coûtent cher quand même, malgré tout, ces prothèses, et peut-être que ça te pousse moins, justement, à expérimenter, à te dire, vas-y, je la pète, et j'en essaie une autre, et tout, et c'est peut-être ça qui... Moi, ça, en tout cas, ça m'a un peu freiné, je me disais, ah, attends, faut pas que je les gaspille, et tout, alors que c'est vrai que, une fois que tu commences à les chercher un petit peu, elles sont trop cool, enfin, bon, moi, je suis vraiment le plus gros fan de celle sur Nero, là, sur laquelle il peut surfer, tu peux lancer le missile, et il peut surfer dessus, il peut faire des tricks aussi, enfin... Voilà, moi quand j'ai vu ça, je suis allé chercher mon gosse, je lui ai dit attends, faut que je te montre un truc parce que là il y a un truc vraiment cool qui est en train de se passer à l'écran.
Un truc à la télé.
Il se passe un truc à la télé.
viens voir ce qu'il y a à l'écran parce qu'il faut vraiment que tu vois ça, tu vois. Et lui aussi était mort de rire parce que bah c'est trop cool en fait. Et pour moi c'était vraiment le bon délire. Et ouais, il y a celle aussi où tu rebondis là, qui fait des espèces de bump comme ça, que tu peux faire utiliser comme une espèce de bumper. Ouais. Et contre les gros boss, tu peux vraiment faire des combos aériens avec. Et c'est très très cool.
Mais par contre, ils ont une logique qui est pas très bien expliquée, et là-dessus je vous rejoins, c'est qu'au début c'est des consommables. Alors c'est l'excuse pour qu'ils fassent des microtransactions, mais c'est surtout qu'en fait c'est nous qui choisissons de les détruire, ou si pendant qu'on les utilise on se fait taper, elles sont détruites automatiquement. Donc il faut en fait bien gérer le moment où on les utilise, parce qu'elles ont un effet qui est effectivement très puissant, mais du coup c'est quand même une prise de risque. Et quand tu commences le jeu, et comme on l'a déjà dit, bah t'as pas encore toute cette subtilité, toute cette science du combo, et t'as pas encore suffisamment d'apprentissage, c'est peut-être pas suffisamment bien amené, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un peu, moi j'ai mis du temps avant de comprendre que l'ordre dans lequel je les mettais, ça allait me permettre à certains moments de choisir quand je les pète, quand je suis vraiment en galère, parce que tu peux choisir de la faire exploser par toi-même pour te sortir d'une mauvaise situation, par exemple. Mais tu peux aussi choisir de maintenir appuyée la touche de la prothèse pour déclencher un effet encore plus puissant, et à la fin de cet effet-là, elle se détruit et tu passes à l'arme suivante. Et en fait, le fait de choisir l'ordre dans lequel tu vas les avoir, ça te rajoute toute une nouvelle couche de réflexion et de planification qu'il n'y avait pas du tout avant dans DMC, qui est, je vais me faire mon espèce de build, tu vois, de ton deck building, tu te fais ton petit jeu de cartes, ton deck, comme dans un jeu de cartes où tu te dis, moi j'ai besoin de ça, ensuite j'ai besoin de ça, etc., comme si tu planifiais tout ton truc. Et pour savoir ça, c'est un truc qu'on s'était dit entre nous pendant la préparation, il faut que tu connaisses déjà le jeu. Savoir ce que tu veux prévoir, dans quel niveau, à quel moment tu vas avoir besoin plutôt de celui qui te permet de faire des dashs aériens, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis aériens, dans celui auquel tu vas avoir besoin des trucs qui font des lasers parce que t'es dans des endroits confinés et ça va bien marcher. Il faut que t'aies déjà fait le jeu une première fois. Et du coup, voilà, ça revient dans cette idée de tant que t'as pas refini le jeu, t'as pas encore tout saisi comme subtilité.
Le jeu te... Essaye de te guider un petit peu, parce que des bras t'en ramassent quand même dans le niveau. Il y en a qui sont disséminés à droite, à gauche, et en général, c'est quand même des bras qui essaient de correspondre un petit peu à la situation. Alors, c'est toujours, comme on l'a dit, tu sais pas exactement ce que ça fait, comment mieux s'en servir, mais bon, le jeu essaye un petit peu. Mais en tout cas, il y a une autre chose à noter, c'est vraiment, il y a une vraie intention derrière, parce qu'on pourrait se dire que. ce build, on pourrait switcher d'un bras à l'autre quand on veut, comme, comme Dante et ses milliers d'armes. Mais là, non, comme tu l'as dit, il faut casser le bras. On peut pas passer d'un bras à l'autre. Il faut vraiment le casser pour que ça passe au numéro 2 du build. Et ça, c'est une intention d'Itsuno qui dit que avec Dante, il voulait vraiment faire qu'il y ait de la variété. C'était ça la volonté, qu'on choisisse en fait de faire telle chose à tel moment, telle chose à tel moment. Alors qu'avec Nero, c'est plus un souci d'optimisation. Tu as tel bras à tel moment, c'est bon, tu prends ça en compte et tu fais avec ce que t'as, en fait. Si tu veux le casser, ok, mais hop, tu passes au numéro 2 et ce sera pas le numéro 3, ce sera pas le numéro 4, ce sera pas le bras que t'as pas. Non, t'as tel bras à tel moment et il va falloir que t'optimises la situation dans laquelle t'es.
Et c'est cool ça, parce que finalement ça donne vraiment trois personnalités différentes, et t'as vraiment l'impression de jouer avec trois personnages. Et ça, c'est trois personnages via le gameplay, en fait. C'est vraiment le gameplay qui les caractérise, qui leur donne une personnalité, une façon de s'exprimer différente. Voilà, Dante c'est le poseur, Nero c'est lui, il est un peu plus énervé, il est un peu plus jeune, tu vois, mais il a cette grosse puissance dans son bras et tu sens qu'il faut aller chercher vraiment la patate. Et V qui est beaucoup plus en retrait, multitasking, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus prince des ténèbres avec son livre. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que cette personnalité, elle est donnée par le gameplay. Et je trouve, tu vois, qu'il a vraiment voulu faire un jeu sur un trio, et c'est magnifiquement exprimé dans le jeu, parce qu'on te fait jongler entre ces différentes personnalités qui sont intégrées dans le gameplay. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment très très fort, quoi. Et ça rejoint encore ce que je disais sur la confiance qu'ils ont dans leur game design, je crois.
Ouais, clairement, parce que faire un jeu où tu vas présenter tu vois, imaginons une situation où je vous présente un jeu vidéo en vous disant, bah, y a trois personnages, vous allez les jouer, non pas les uns à la suite des autres, mais de manière pas random, mais c'est moi qui ai prévu. C'est-à-dire que vous allez jouer quatre niveaux Nero, puis deux niveaux V, puis re un niveau Dante, puis re machin, puis re bidule. Y a pas une progression, tu vois, c'est ce que disait Max tout à l'heure, c'est pas 6 heures de Dante, 6 heures de V, 6 heures de Nero, c'est un peu un peu l'autre, c'est un peu comment
c'est
ça
pas trois campagnes en fait, ouais. C'est pas trois campagnes séparées, ouais, c'est une campagne mélangée.
Voilà, et tu passes de l'un à l'autre, des fois tu les revois, alors c'est des petites subtilités, on n'a pas parlé dans les nouveautés, tu vois l'autre personnage, parce que des fois tu refais le même niveau,
ah oui,
au même
oui,
moment,
oui.
Bon, c'est du
ils
détail.
Ils sont séparés.
Hein. Ouais, ça change pas grand chose, mais voilà, il faut quand même avoir une, comme vous le disiez, une vraie assurance, une vraie confiance en soi, de se dire on va faire un jeu. Il faut que les gens ils le terminent plusieurs fois. On va leur proposer trois systèmes de gameplay qui sont ultra différents et qui sont tous aussi profonds potentiellement, mais ils le seront que s'ils terminent le jeu plusieurs fois. Et en plus de ça, on va les faire changer de gameplay et de réflexion en permanence. C'est quand même osé, hein. C'est des trucs comme ça, tu présentes pas ça dans n'importe quel studio. Il faut que t'aies effectivement la confiance des gens avec lesquels tu bosses pour leur dire, bah voilà, ça va être comme ça et ça sera, vous verrez, ça va fonctionner.
Et c'est peut-être pour ça que finalement, malgré ce qu'on disait, c'est que c'est un jeu qui est très très ancré dans une période qui semble révolue du jeu vidéo, bah malgré tout en fait, avec cette assurance, avec cette confiance qu'ils ont dans leur game design et avec cette diversité, bah voilà, ils arrivent à proposer un jeu d'action que personne d'autre n'est capable de nous offrir vraisemblablement, hein, en 2019-2020, il n'y a pas d'autres jeux qui font ce que Devil May Cry fait. Alors on attend peut-être toujours Bayonetta 3, mais voilà, concrètement, depuis Bayonetta 2, qu'est-ce qui est sorti finalement comme beat'em all qui peuvent se hisser à ce niveau-là?
Il y a eu des trucs, hein, mais c'est vrai que dans ce que fait vraiment DMC avec cette approche très du gameplay, issu de l'arcade, avec toute la profondeur de gameplay qu'on peut avoir dans les jeux de baston, etc., ils sont presque les seuls. Parce que c'est vrai que bon, il y a Platinum, évidemment, Camilla, il a continué à faire un peu des trucs, mais avec Bayonetta, il est dans une autre logique. On est toujours dans de l'esthétique, on est toujours dans une recherche de performance, mais ils ont vraiment tout basé leur jeu sur le twist du Witch Time, hein, donc Bayonetta, voilà, c'est pas du spoil, quand vous faites une esquive au bon moment, le temps se ralentit et Bayonetta peut lancer plusieurs coups avant que le temps reprenne son truc normal, et c'est ça son grand pouvoir à elle, hein. C'est ça sa grande particularité, plus les fameuses finishes qui sont en mode dominatrix, etc.
Finish Shadow Maso, ouais.
Ouais, ouais. Mais voilà, il n'y a pas cette idée de style, il y a du scoring, mais il n'y a pas cette idée de style, et ça c'est vraiment le truc qui fait que DMC est très différent, en fait. Pendant des années, il y avait des jeux qui étaient assez proches, mais dans une philosophie très différente, qui sont les jeux occidentaux. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé, voilà, opposer les deux. C'était un peu, voilà, pendant des années, tu vois, il y avait God of War d'un côté, et de l'autre côté, il y avait DMC. Mais c'est pas du tout la même approche. God of War, les trois premiers en tout cas, on est vraiment pas dans du dans de la maîtrise. Au contraire, Kratos, c'est un personnage brutal où il faut qu'on cède à son côté bestial. On va marteler les touches, on va faire des QTE. Tu vois, le QTE, c'est la non-réflexion totale. C'est juste, il faut appuyer le plus vite possible sur les boutons pour remplir une jauge et à la fin,
c'est
ça pas, déclenche une action.
C'est la, ouais, vraiment la non-expression, c'est vraiment l'idée. Tu ne t'exprimes pas à travers Kratos, tu vas essayer de rentrer dans sa psyché extrêmement subtile quand il pète la tronche à Hercule. Voilà, c'est dans ces moments-là que tu es en symbiose avec lui.
Et ouais, c'est ça, tu martèles une touche pour faire des trucs, ça n'a pas vraiment de grande réflexion, et le plaisir ne vient pas tant de la recherche d'expression et d'esthétique, mais par contre, tu vas être récompensé par des cinématiques, par une mise en scène complètement incroyable. Voilà, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à re-regarder l'introduction, les 20 premières minutes de God of War 3. Je pense qu'encore aucun jeu vidéo n'a osé faire un truc aussi taré depuis. Et vraiment, voilà, ils avaient ce grand délire-là. Il y a eu quelques tentatives. Tu vois, tu avais parlé de God End. Il y avait Dante's Inferno qui essayait de reprendre un petit peu ça. Il y a eu Metal Gear Rising Revengeance. Bon, c'est du Platinum, donc finalement,
on
est très surpris. Ouais. Mais c'est un genre de jeu qui avait presque disparu, le beat'em all comme ça, très poussé. Et là, bah, je pense que DMC va peut-être lui redonner un peu sa légitimité. On l'a vu, Platinum, ils ont montré donc Babylon's Fall, qui est développé en partenariat avec Square Enix, qui pour le coup, l'héritage DMC, il est totalement assumé. Hein. Tu vois, t'as l'impression qu'ils ont pris ce qu'ils avaient fait dans Nier Automata et qu'ils en ont fait un truc beaucoup plus poussé. Mais comme tu le dis, c'est un genre de jeu où il y a finalement très peu de représentants.
Et puis surtout, c'est que c'est pas une question qu'ils sont tout seuls, c'est qu'ils vraiment, moi je trouve qu'ils sont, je les ai pas fait les autres DMC, mais sincèrement quand j'y joue à ce jeu, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont au sommet de leur art, tu vois, je vais pas m'amuser à faire des classements, lequel c'est meilleur, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui, voilà, nous on sait faire ça et on va vraiment le pousser à fond, et c'est pour ça que j'étais vraiment surpris avec V en fait, c'est que je me dis ces mecs là ils en sont tellement à une maîtrise qu'ils peuvent se permettre de te mettre un personnage complètement différent et quand même tenir la route, et Dante, voilà, il y a un amour qui transpire en fait pour ce perso, enfin toutes les animations qu'ils lui ont fait, c'est n'importe quoi, enfin vraiment sa petite manière de bouger, de faire ses petits hi-ha, de changer d'attitude quand il change d'arme, quand il est avec son bazooka, quand il est avec ses nunchaku ou quand il est avec ses trucs de boxe, là tu vois qu'il bouge comme Balrog dans Street Fighter, c'est trop bien quoi, c'est voilà, c'est, ils l'ont tartiné d'amour quoi, et tu sens que c'est des gens, voilà, ils savent ce qu'ils font, et moi je suis vraiment impressionné en fait en jouant.
Ouais, c'est ça, non seulement c'est un des rares représentants du genre en 2019, mais en plus de ça ils jouissent vraiment d'un budget, d'une technologie, tu vois, qui fait que
ils
peuvent vraiment aboutir à quelque chose de vraiment monstrueux, comme tu dis, vraiment, enfin oui, les animations c'est fou, on disait, non seulement il y a des personnalités dans le gameplay, mais ils arrivent à l'appuyer justement avec toutes ces attitudes, tu vois, les postures de V, les façons, tous les finish moves, il y a du slow motion à la fin, quand chacun termine vraiment un monstre, tu vois, c'est du bonbon, à chaque fin de combat, t'as ce petit coup final que tu mets, et c'est super, ils ont même sur leur visage, tu vois, ils ont des expressions, Nero, il va être un peu vénère quand il met un coup de flingue, tu vois, V, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont fous, enfin, tu vois, c'est vraiment, ouais. Non, c'est vraiment fou, ouais.
Ça, c'est un truc qui est incroyable parce que souvent, tu vois pas forcément le visage du personnage, mais ouais. Évidemment, il y a un mode photo. Et donc, comme il y a un mode photo, j'ai passé la moitié de ma vie là-dedans. Mais justement, j'ai halluciné parce que le nombre de fois où il n'y a pas d'option comme dans plein de jeux, tu vois, dans God of War, tu peux changer la tête de Kratos faire leur mode photo. Là, c'est le jeu qui prévoit ça. Et le nombre de fois où tu vois Nero qui est mort de rire ou qui a un sourire complètement carnassier, pas quand il est en train d'abattre son truc. Et moi, il y a un combo que j'adore, tu vois, je sais plus lequel c'est, mais je crois que c'est celui où tu appuies d'abord sur Y, tu attends et ensuite tu continues de marteler ta touche. Tu sais, il tabasse le mec au sol. Et en plus de ça, quand tu appuies au bon moment avec la gâchette, tu sais, il appuie de plus en plus vite et t'as des flammes et ça part dans tous les sens. Et tu vois vraiment, comme tu dis, cette personnalité du jeune qui est fougueux, tu vois, etc. Alors que Dante, lui, il est tout dans la maîtrise, il est tout dans le... Tu vois, c'est le vieux maître, il peut se permettre de changer de style, il s'en fout, il maîtrise tout, il est comme
l'eau,
il change, tu vois, il est mort de rire.
Il rigole,
tu vois. Ouais, lui, ça le fait marrer.
C'est le vieux maître, mais un peu avec la malice du vieux singe, tu vois.
C'est ça, taquin, le vieux maître taquin. Ouais.
Mais ils lui ont fait en plus une gueule, tu vois, où tu sens que c'est le quarantenaire qui commence quand même un petit peu à avoir un petit peu de bouteille, il a toujours ses cheveux un peu chelous, etc. Alors que de l'autre, son côté, Virgile, il essaye d'être très dans la maîtrise et dans la retenue, tu sens que c'est un perso très japonais de ce côté-là. Et comme tu le dis, on ressent beaucoup cet amour-là et c'est des personnages qui n'existeraient pas très clairement s'ils n'avaient pas ce gameplay-là. Et ça, je trouve que c'est un truc que tu pourrais... que tu n'as effectivement que dans le jeu vidéo. Tu vois, tu parlais de Street Fighter avec Boxer. C'est vrai que c'est des persos, leur design, leur attitude donne vie à ce que toi tu fais. Et tu vois, le tout se mélange et il y a une espèce de symbiose, voilà, qui se réalise. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas le jeu, parce qu'on vous spoil pas grand chose pour une fois.
Oui, vraiment, pour une fois, là, celui-là, vous pouvez carrément y aller. Vous vraiment, ne perdrez rien parce que c'est tout dans les doigts. Hein.
Ça, je vous invite à essayer d'expérimenter ça parce que c'est un truc qui je pense, nous explique vraiment, nous fait vivre des trucs du jeu vidéo que voilà, qui ça fait partie de toutes ces ressentis, toutes ces émotions qu'on ne pourrait pas avoir avec autre chose que du jeu vidéo.
C'est à la fois très primaire, c'est-à-dire que c'est vraiment des émotions très primaires du jeu vidéo, hein, il remonte à Ghosts and Goblins, mais en même temps c'est fait avec une maîtrise de 2019, de 2020, de gens qui ont toute cette expérience. Et voilà, c'est Capcom, ils sont vraiment au top en ce moment, en fait, dans tout leur... Alors peut-être pas Street Fighter, c'est peut-être toujours le cas particulier, mais voilà, que ce soit Monster Hunter, que ce soit Resident Evil, que ce soit vraiment DMC, c'est vraiment... Ils sont au sommet, là. Je sais pas s'ils pourront aller encore plus loin avec un éventuel sixième épisode. Je pense que lui, il avait... Itsuno, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Il a envie de faire son Dragon's Dogma 2, là, ça c'est clair. Il va le mettre en pause.
Il l'a mérité, mais, il vraiment, va le faire, c'est bon.
Il l'a mérité. Exactement, il a mérité.
Bah, comme il avait mérité le 1, parce qu'on on l'avait pas précisé, mais juste quand il avait fait le 3, je crois qu'il voulait un petit peu s'arrêter là, et ils lui ont dit non, en fait, tu vas quand même faire le 4, ouais. Et après il a fait Dragon's Dogma. Donc tu sens qu'il y a un peu ce côté, voilà, si tu veux l'avoir, voilà, il faut que tu fasses quelque chose pour moi et je ferai quelque chose pour toi.
Oui, et ça, eh ben, ça permet une fois de plus de rappeler que voilà, les personnalités et les seniors dans l'industrie japonaise, c'est des gens qui sont extrêmement respectés et tu vois, leur avis est écouté, mais ils peuvent pas non plus, hein, je le disais tout à l'heure, faire ce qu'ils veulent. Non, ils ont quand même un peu des obligations, mais, mmh. Mais par contre, ils le font bien. Tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien se vexer et faire un jeu, tu vois, qui aurait été juste une espèce de maxi best-of un peu cheap de ce qu'était Devil May Cry. Et non, ils ont fait un épisode. Alors moi, je m'en fous des classements, mais très clairement, c'est mon préféré de très loin, parce que justement, comme tu l'as dit, pour moi, c'est celui qui va le plus loin. C'est celui qui propose le plus de fun, les animations les plus soignées, les combos les plus fous. Il y a quasiment tout le bestiaire des anciens jeux qui est de nouveau présent. Donc ça te donne tout un tas de situations avec les ennemis. Il y a vraiment du contenu gargantuesque, parce que t'as toujours ces fameux modes de jeu, ce fameux Bloody Palace, etc. Je suis surpris, malgré tout, qu'ils aient pas fait leur DLC où ils nous font jouer Virgile. Alors, est-ce qu'ils le préparent ? Est-ce que le fait qu'on fasse un épisode sur fin du game, ça va déclencher quelque chose au niveau cosmique? Peut-être, j'espère, parce que ça me ferait très plaisir, parce que c'est un personnage, Virgile, qui est assez intéressant. Je serais curieux de voir ce que c'est leur vision d'un Virgile en 2020 ou 2021, tu vois. Mais voilà, et clairement, Capcom, ils ont entretenu, ils ont soigné, tu vois, leur senior, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que après avoir galéré pendant quelques années, bah, ils se retrouvent quand même à avoir des gens qui ont toujours autant d'expérience, qui maintenant, ils maîtrisent les outils et la technologie qui est à leur disposition, et ils font des trucs qui sont effectivement incroyables. Ça fait plusieurs jeux maintenant qu'on parle de Capcom, ouais. On avait notamment parlé de Resident Evil, et c'est vrai que, bon, bah, tu vois, moi, c'est vrai que ces derniers temps, je joue beaucoup à Monster Hunter, DMC, c'est un jeu qui m'a marqué, je m'attendais pas à ce que Capcom, comme ça, revienne aussi en forme après des années de creux, quoi.
Ils ont encore réussi à faire une relecture moderne, en fait, mais d'une licence qui a bientôt 20 ans, hein, maintenant, avec Devil May Cry, l'ont fait avec Resident Evil, voilà, ouais. Ils arrivent vraiment à puiser dans ce qu'ils ont, mais pas en faisant, comme on a pu le dire à Resident Evil, du remake feignant, tu vois, qui serait juste voilà, la même chose. Non, ils vont vraiment retaper le truc.
Square Enix. pas le remake du FF7, oui. Parce que j'ai adoré. Non mais tu sais, tous les épisodes dégueulasses qu'ils ont sortis en faux HD,
et là, tu vois,
vraiment des trucs feignasses.
Devil May Cry 5, ça aurait pu être l'occasion de faire une espèce de reboot où ils reprennent quand même vraiment les trucs de base du 1, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a suffisamment de temps qui s'était écoulé, de faire quasiment un code Dante. Finalement, tu vois, non, ils continuent de proposer de la nouveauté, d'un côté avec V, le bras de Nero et tout, mais il y a aussi, voilà, le bon vieux Dante, a priori, qui est quand même le même, un petit peu le même style qu'au début. Et tu vois, toi, tu dis c'est ton préféré, sachant que t'as joué aux autres. Moi, c'est le premier auquel j'ai fait, même si, voilà, je suis pas un gros fan du m'investir à fond, faire du New Game plus. J'ai quand même bien aimé, tu vois, j'ai passé vraiment un bon moment, j'ai compris tout ce qu'il y avait d'intéressant avec le jeu, quoi.
Et puis c'est maîtrisé, c'est bien rythmé, ouais. C'est bien cadré, il y a vraiment ce switch entre tous les personnages. Non, vraiment, c'est un jeu.
Ouais, il y a la musique qui coule, il y a la mise en scène qui part dans des grands délires. Comme tu dis, il y a tout cet amour pour les personnages, mais il y a aussi ce côté second degré, parce qu'ils savent aussi de temps en temps relâcher la pression et faire n'importe quoi. Enfin, vraiment, il y a une maîtrise, voilà, vraiment du début à la fin, qui ont fait un jeu ben, extrêmement plaisant. Vraiment, moi, ça me donnait la banane à chaque fois que j'y jouais.
C'est ça.
J'avais le sourire.
Ça fait plaisir à jouer. Ouais, pareil, je suis vraiment d'accord. C'est un jeu qui fait du bien parce que justement, il y a tellement de positivité en fait dans ce truc-là que tu peux pas prendre autre chose que ce jeu-là. Et encore une fois, ouais, vraiment, si vous connaissez pas, moi, c'était mon premier DMC et je me suis vraiment éclaté dessus. Et ça fait du bien de jouer à un jeu comme ça parce qu'il n'y en a pas d'autres et c'est vraiment rafraîchissant par rapport à tout ce qu'on peut voir à côté. Donc voilà, encore une vraie réussite pour Itsuno qui va vers sa 50e année maintenant.
Ouais.
D'ailleurs, il le disait, il se demandait combien de temps encore il pourrait faire des jeux. Donc là, lui, il est dans la réflexion, voilà, je vais peut-être faire mon Dragon's Dogma 2, peut-être encore un DMC 6, on verra, c'est pas où il va aller. Mais bon, voilà, je pense qu'avec ce jeu-là, il a pu déjà mettre une pierre importante à l'histoire qu'il a écrit chez Capcom, et grand jeu.
Ouais, vraiment, vraiment très grand jeu. Voilà, moi je suis. Vous rigoliez évidemment quand je disais ça dans l'opération. Moi je suis un gros fan de Dragon's Dogma, donc je suis. J'espère qu'ils vont le laisser faire son Dragon's Dogma 2 et qu'il va nous faire un truc de fou avec. Parce que quand je vois les capacités du moteur de Capcom et ce qu'ils arrivent à faire en ce moment, j'espère qu'ils vont faire quelque chose de très bien. Parce que bon, il y a toujours évidemment, attention, la menace fantôme de Capcom qui tombe dans ses travers habituels et qui nous sort des remakes à longueur de journée. Donc voilà, faut faire attention. Là, ils sont sur un bon un bon combo, tu vois, ils ont du style en ce moment, mais il faut pas qu'ils tombent il faut qu'ils gardent la variété comme dans Devil May Cry.
Exactement. Et bah très bien, écoutez, merci messieurs, merci encore une fois à nos patriotes. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Patreon si vous voulez nous soutenir. Le prochain objectif, ce sont des jeux rétro. Alors pas vraiment des jeux rétro, vraiment plus aller taper dans les grands classiques du jeu vidéo, hein, vraiment des trucs qui nous demandent peut-être un peu plus d'investissement parce qu'on les connaît moins, parce que vous le savez, Fin du Game c'est une émission de jeunes où on n'a pas joué aux vieux jeux, à part pour une certaine personne. donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. On remercie encore une fois Sœurs d'édition pour leur sponsoring. Allez voir tous les livres qu'ils ont dispo actuellement, et puis aussi celui sur Peter Molyneux qui vient juste de sortir pour en apprendre un peu plus sur ce personnage énigmatique de l'industrie. Et puis nous voilà, si tout va bien, si ma connexion le permet, si le confinement l'autorise, peut-être que le prochain épisode on sera enfin tous les trois de nouveau réunis pour parler de jeux vidéo. Et voilà, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, comme d'habitude. Merci beaucoup.
Ciao.
Salut.